Bonjour! Bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue! Comment ça va les copains? Est-ce que tout roule? Merci la hype du train, merci Couillère, merci Neros80, Dad49, Taylavox, merci beaucoup. Vous allez bien? J'ai pas suivi du coup The Event ou pas The Event cette année pour toi? Pas The Event pour moi cette année, pas The Event. Non, non, non. Mais soutenez le The Event, hein. Faites des dons, bourrez les dons, bourrez les dons, je compte sur vous. Bourrez les dons. Et soutenez Baxit. Je suis Bayrou et je vais pas bien. Ah bah François Bayrou, non, mais attends, François Bayrou va redevenir maire de Pau, hein. François Bayrou va redevenir maire de Pau. Enfin, je veux dire, il l'est déjà, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. À plein temps, à plein temps. Je cherche du taf. Eh bah courage, j'espère que tu vas en trouver. Guerre en Ukraine, famine à Gaza, plus de gouvernement en France, tout roule. Plus de gouvernement en France. On n'en est pas là, on n'en est pas là. Attends, 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 spoil pas. On va voir, peut-être ça se trouve. On va avoir un gouvernement la semaine prochaine, hein? Je sais pas. Oh, j'ai hâte qu'on retombe dans les rumeurs. Vous savez, les rumeurs de composition gouvernementale? Genre machin est pressenti pour le poste de ministre de truc. Ah ouais, ça va être bien. Ah non, bah, on va retomber dedans, hein. C'est reparti. Est-ce que tu vas stream live le départ de Bayrou? Évidemment. Je serai en live lundi. Vous pourrez suivre en direct sur ma chaîne l'adoption. Non, la non-adoption d'une motion de confiance déposée par un gouvernement. C'est incroyable. Un moment historique. Jean Massier est pressenti. Viens, Malek, on fait courir le bruit. On fait courir. C'est important de faire courir des bruits. Jean Massier serait pressenti comme ministre d'ouverture à la société civile. Chargé de la jeunesse. Est-ce que tu sais à quelle heure aura lieu le vote de confiance lundi? Ça commencera à 14h sur ma chaîne Twitch, puis à 15h débutera la séance à l'Assemblée nationale, et le vote interviendra vers 17h, 17h30, un truc comme ça. Bah, le temps que tout le monde ait fini de parler, quoi. En général, ça prend un peu de temps. Je peux envoyer trois textos la semaine prochaine et ça part. Le gag backseat. Le gag nul. Vraiment, tu fais tourner ça dans les rédactions. Non, mais faut pas faire des conneries comme ça parce qu'après, les journalistes à qui t'envoies ce genre de texto pour rigoler, ils ont plus confiance en toi. Je vous avais raconté l'anecdote de l'UPR. Est-ce que je vous avais raconté l'anecdote de l'UPR? Vous vous souvenez de l'UPR? L'UPR de François Asselineau. Ça faisait marrer tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas suivi le gag, c'était en 2017, et ça faisait marrer tout le monde parce que l'UPR, il pétait les burnes à tout le monde sur Internet, mais dans la vraie vie réelle des vrais gens, ils n'existaient pas en fait, les mecs. Personne n'avait jamais vu l'UPR. C'est pas, enfin, voilà, ils n'existaient pas électoralement, ils existaient, mais ils existaient que sur Internet. Et ils étaient très casse-couilles, les militants UPR. Enfin, ils étaient casse-couilles. Non, ils étaient gênants parce qu'ils faisaient beaucoup plus de bruit que la réalité de leur poids, quoi. Mais c'est pas grave, enfin bref. Et moi, à l'époque, on avait donc la chaîne Acropolis, l'ancêtre de ma chaîne Twitch. Et avec Acropolis, on organisait des apéros dans les régions. On allait à la rencontre des abonnés. On allait boire des coups et tout. On l'a fait à plein d'endroits. On l'a fait à Toulouse, on l'a fait à Lyon, on l'a fait à Lille, à Strasbourg, à Rouen. On est allé à plein d'endroits à Paris plusieurs fois, etc. Machin. Et il y avait un espèce de gag interne à la communauté Acropolis, c'est que je tweetais, je prenais une photo de groupe, genre selfie avec tout le monde dans le bar, je prenais une photo et je tweetais réunion amicale des militants UPR du département machin, et je rajoutais le département. Et le but de la blague, c'était de voir combien de militants UPR sur Internet gobait le truc. Combien de comptes estampillés UPR, à l'époque sur Twitter il y en avait plein, Combien? Et ça marchait trop bien. Ça marchait trop bien. Les mecs retweetaient et tout. Vraiment, le bait était parfait. Enfin, ils étaient trop contents. Ils étaient en mode, ah, oh, trop bien. Oh, il y a eu une réunion locale dans le Rhône. Oh, eh ben, salut, les copains, les camarades du Rhône et tout. Non, mais non, bref. Et donc, c'était la blagounette. Voilà, c'était une blagounette. On n'en parlait pas plus que ça. C'est une blagounette. Et un jour, j'ai complètement oublié ce truc-là. Je suis dans les couloirs de Radio France. Et je croise un journaliste. On se claque la bise, on se dit bonjour, tu vas bien, ouais, et toi tranquille, et tout, ouais, tout va bien, tout se passe bien et tout. Et il me dit, il me dit, mais par contre, Jean, je savais pas que t'étais UPR. Je dis quoi? Il dit non, mais je l'ai découvert, mais j'avais pas compris, je savais pas que t'étais membre de l'UPR. Et moi, je lui dis, mais de quoi tu parles? Ça va pas ou quoi? Et du coup, il était hyper gêné. Il est en mode, c'est trop bizarre. Non, mais je sais pas. Moi, j'ai vu sur Twitter des photos, etc. Et là, je percute d'un coup dans ma tête. Je me dis, ah merde. Oui, merde. Non, en fait, la blagounette, il y a des gens qui la prennent premier degré, en fait. Ah non, mais en fait, c'est pas. Ah non, faut que je fasse gaffe. Ah non, faut que je fasse gaffe. Je peux plus faire la blagounette. Ah non, je peux plus faire ce genre de blague. Parce qu'après, il y a des gens sincères, premier degré, qui ont pas compris que c'était une blague et qui, du coup. Et du coup, à partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais fait la blagounette de l'UPR. Voilà. Dommage. Je pouvais pas me permettre de passer pour quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de passer pour. Si c'est sur Internet, c'est que c'est vrai. Bah ouais. J'ai été rattrapé par la réalité. Ouais, c'est exactement ça. J'ai été rattrapé par la réalité et du coup voilà. Donc non, c'est pour ça que faire des blagues à des confrères journalistes en leur envoyant des textos un peu troll pour faire croire que t'es pressenti ou que quelqu'un que tu connais est pressenti pour devenir ministre, c'est marrant. Mais en fait, tu l'as fait qu'une fois la blague parce qu'après les gens ils te font plus confiance de toute façon. Ça existe encore l'UPR? L'UPR existe toujours, oui. François Asselineau existe toujours. François Asselineau n'existe que sur Internet. Il avait réussi à défendre une candidature à l'élection présidentielle de 2017. Et entre 2017 et 2022, de mémoire, il y a eu un drame au sein du mouvement UPR parce que François Asselineau a été accusé de comportement inapproprié envers des hommes du mouvement. Voilà. Alors, à quel point est-ce que ça a été l'hécatombe pour le parti, etc. Je vous avoue, j'en sais rien. Il y a probablement des journalistes qui suivent ça et qui essayent de faire le point, mais. Il fait des lives sur YouTube les mercredis soirs. Ouais, voilà, non, mais après, l'UPR a toujours été un parti qui n'existe pratiquement que sur Internet. Mais. Encore une fois, pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas connu cette époque-là, je me permets de vous rappeler qu'entre 2014, 2015 et 2017, l'UPR faisait beaucoup de bruit sur Internet. Vraiment, hein, ils étaient là, quoi. Ils étaient vachement nombreux, ils étaient vachement organisés. Ils militaient, ils étaient dans les espaces commentaires des vidéos sur YouTube, ils faisaient du bruit sur Twitter, des vidéos à rallonge sur YouTube, une web TV, etc. Non, non, c'est. Du bruit pour faire quoi? Bah, du bruit pour plaider pour la sortie de la France de l'Union européenne. Pour ceux qui ne le savent pas, le leitmotiv de l'UPR et de François Asselineau, c'est ce qu'on appelle le Frexit, donc le projet de sortir de l'Union européenne. Voilà, c'est le grand truc de François Asselineau. Peut-être que le Brexit lui a fait du mal aussi. Parce que maintenant que les Britanniques sont sortis de l'Union européenne et qu'ils le regrettent un peu et que tout le monde voit que c'est pas ouf en fait comme plan de sortir de l'Union européenne, peut-être ça porte un peu moins. Peut-être ça porte un peu moins le truc du Frexit. Enfin, j'ai l'impression que c'est moins. C'est un souverainiste, quoi. Ah oui, c'est un souverainiste. Oui, c'est complètement un souverainiste, François Asselineau. Ah oui, ça, il s'en cache pas, hein. Je me souviens qu'il voulait construire un porte-avions. Ouais, je m'en souviens aussi, ouais. Il est pro-russe, faut pas oublier. Ah oui, François Asselineau, il est pro-russe aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. T'as raison. Je suis pas un grand expert de François Asselineau, je vais pas vous mentir, je l'écoute pas énormément. Mais bon, toujours est-il qu'il a pas réussi à se présenter à l'élection présidentielle de 2022. Donc, pas trop de nouvelles de lui, quoi. Et son parti a jamais réussi à percer dans d'autres élections, aux élections européennes. Ils ont pas de députés européens, à ma connaissance. Ils n'ont pas de députés français. Ils ont pas d'élus locaux en grande quantité. Y a aussi Philippot qui est sur la même ligne. Florian Philippot, ancien du Rassemblement national, il est carrément souverainiste. Ouais, d'ailleurs, c'était l'un des sujets de son engueulade avec Marine Le Pen. Le fait qu'elle revienne sur la sortie de l'euro alors que lui, il tient mordicus. Il faut sortir de l'euro. C'est son leitmotiv. Et Florian Philippot est assez proche de François Asselineau. À une petite subtilité près, c'est que Florian Philippot, il est aussi devenu anti-vax. Rappelez-vous du Covid. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont oublié, vous vous souvenez la guerre du Covid. Bon bah Philippot, il a été l'un des leaders du mouvement de contestation contre les mesures de confinement, le masque, les vaccins. Les gestes barrières, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, la notoriété de Florian Philippot a fané avec la fin du, enfin voilà, le mouvement anti-vax a un peu fini en autre boudin. On n'en parle plus. Il est climato-sceptique à fond aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est ouf parce que Florian Philippot, il a quand même été, pour celles et ceux d'entre vous qui ne s'en souviennent pas, il a été le faire-valoir de Marine Le Pen dans les premières années de sa stratégie des diabolisations. Il était le costume cravate, le jeune brillant énarque qui accompagne Marine Le Pen dans sa conquête du pouvoir avec sérieux, avec robustesse. Il lui pondait des notes, il a organisé les cadres du parti, etc. Florian Philippot, il. Voilà, il a été cet élément essentiel pour la stratégie de Marine Le Pen. Philippot, il était brillant dans son genre au RN, puis complètement décrépi ensuite par ses prises de position scabreuses. Oui. Oui, c'est bien résumé. Le downfall de Philippot est impressionnant. Ah, Philippot, il était choyé par les chaînes d'info, il était choyé par. Ouais, c'était le mec qui compte au RN après Marine Le Pen. C'était vraiment l'éminence grise du RN, etc. Puis ils se sont séparés avec Marine Le Pen. C'était au moment de la présidentielle de 2012 ou plus tard. En 2017, ils sont séparés en 2017? Ouais, c'était 2017. Ok. 2017, Florent Philippot est écarté du parti par Marine Le Pen sur fond de divergence de point de vue, où Marine Le Pen voulait aller encore plus loin dans la stratégie de la dédiabolisation, là où Florent Philippot maintenait quand même des positions assez dures, notamment sur l'Union européenne. C'était pendant les européennes, la vraie rupture? C'est les européennes de 2019 alors? Ouais, t'as peut-être raison, ouais. Philippot a aussi pensé, après le débat raté, que Marine Le Pen était finito. Oui, c'était, je me souviens de Florent Philippot, effectivement, qui alors, Florent Philippot a essayé de se barrer du RN et de créer une nouvelle crèmerie. Hein. Il n'est pas parti tout seul. Il est parti avec des cadres du parti, il est parti avec des militants. Florent Philippot, non, ça a fait du dégât. Hein. Comment, les Patriotes, voilà, c'est ça, les Patriotes. Le parti Les Patriotes. Ouais, non, c'était une aventure. Enfin, j'en parle au passé, hein, parce que je sais pas si Florent Philippot va revenir. On pourrait être surpris, hein, il est encore relativement jeune. Mais. Mais ouais. Parlons des sujets du jour, les copains. Alors, attendez. Je voulais discuter avec vous de plein de trucs. Parce que, mine de rien, l'actualité s'accélère. Hein. Vous savez que cette semaine, François Bayrou, le maire de Pau, mais par ailleurs Premier ministre, enchaîne les consultations à Matignon, où il rencontre les responsables politiques des différents partis, pour essayer de sauver la tête de son gouvernement avant le vote inéluctable de lundi prochain, où l'on sait par avance qu'arithmétiquement, ça ne va pas le faire pour le maire de Pau. T'as rendez-vous avec quelle heure? À quelle heure avec François? François Bayrou m'a donné rendez-vous à 19h pour l'apéro. Il m'a dit pour l'apéro, il m'a dit prends des bières. Bon bah voilà, donc j'irai avec des bières, et puis il va me consulter. Je lui ai dit, t'as qu'à regarder mon stream. Il m'a dit, bah, je peux pas, je suis avec les autres parties et tout, machin. Chiant. C'est pour ça qu'il a rénové son bureau. Non, son bureau, c'est à Pau. C'est pas au ministère. Oublie pas le Burger King. Oui. Oui. On commandera des tacos. Tu paries sur qui, toi? Bah. J'en sais rien, moi, au début de la semaine. Au début de la semaine, moi, je pariais sur Le Cornu, Catherine Vautrin, bref, des fidèles de la Macronie. Enfin, des fidèles de la Macronie. Des gens internes au groupe macroniste avec lettre de mission de trouver des coalitions plus larges que celle de François Bayrou et d'y aller mollo sur le déficit. Et puis là, mine de rien, il y a la petite musique qui monte. Il y a la petite musique qui monte du Parti Socialiste, dis donc. Le Parti Socialiste pourrait être amené à composer un gouvernement. Mais c'est compliqué parce que le Parti Socialiste veut une cohabitation, sous-entendu un gouvernement socialiste avec des alliés de gauche, notamment écologistes et communistes dedans, mais pas de macronistes. Donc un accord de non-censure avec le groupe macroniste, mais pas de participation du groupe macroniste dans le gouvernement. Et ça n'a pas l'air de plaire du tout à Emmanuel Macron, qui pourtant a laissé passer les infos qu'il faut aller chercher les socialistes et négocier avec eux. Il y a un article de Libération qui m'a fait réfléchir hier soir dans mon lit. Je me suis dit, il faut qu'on le lise ensemble avec le chat et qu'on discute ensemble parce que ça m'intéresse d'avoir votre point de vue dessus. Alors qu'Emmanuel Macron enjoint ses alliés à travailler avec le PS pour empêcher la démission de François Bayrou, Olivier Faure et ses troupes revendiquent Matignon pour tenter un compromis sur le budget. Une posture de trahison, juge LFI, évidemment. François Bayrou a beau se démultiplier dans les studios radio et sur les plateaux télé, rien n'y fait. Son sort semble bel et bien scellé. Depuis l'annonce surprise du 25 août de son choix de se plier à un vote de confiance à l'Assemblée nationale le 8 septembre prochain en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier, ses discours dramatisants sur la situation économique du pays n'ont convaincu personne. Ni le Rassemblement national, ni la gauche, qui ont rapidement affirmé qu'ils voteraient contre la confiance, n'ont revu leur position. Mardi 2 août, Emmanuel Macron a donc décidé de se pencher sur le dossier en réunissant à l'Élysée le locataire de Matignon, le secrétaire général de Renaissance, Gabriel Attal, et les présidents d'Horizon et des Républicains, Édouard Philippe et Bruno Retailleau. Donc c'était le socle commun, quoi. L'occasion d'inviter le socle commun des partis soutenant l'actuel gouvernement à travailler avec les socialistes pour élargir la majorité et donc sauver Bayrou de la démission forcée. Voilà donc l'EPS plus que jamais au centre de l'attention. Eux, qui depuis plusieurs jours déjà observent les mains tendues de figures macronistes, à commencer par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Rappelez-vous, Gérald Darmanin, dans son espèce d'université d'été à lui, là, où il a réuni ses partisans, a tendu la main au Parti Socialiste. Il n'a pas tendu la main spécifiquement au Parti Socialiste, mais à la gauche, en disant qu'il était prêt à avoir de l'ouverture sur des mesures sociales. On verra. En vain, le parti à la rose est au point martèle que sa décision de ne pas accorder la confiance à François Bayrou est irrévocable. Si plusieurs de ses représentants se rendent jeudi à Matignon, c'est justement pour réaffirmer cette position et surtout pas pour entamer des négociations, insiste-t-on au PS. Ils peuvent nous faire toutes les danses du ventre qu'ils veulent, on n'est pas d'accord avec eux, on va pas se travestir pour sauver un gouvernement de droite, affirme Amine Embarki, secrétaire national du PS, chargé des fédérations et proche d'Olivier Faure. En réalité, les socialistes sont déjà dans l'après-Bayrou. Depuis leur université d'été à Blois le week-end dernier, les Roses, comme Dominique de Villepin ce mercredi 3 septembre, affirment que le temps est venu de confier les manettes à la gauche et que son parti est justement volontaire pour former le prochain gouvernement. Mardi soir sur LCI, Olivier Faure a répété être à la disposition évidemment du chef de l'État à tout moment pour discuter des conditions dans lesquelles nous pourrions effectivement occuper les places gouvernementales. Des propos qui valent une fois de plus trahison pour les insoumis. Toute la soirée, les élus du mouvement mélenchoniste ont multiplié les tirs groupés sur le premier secrétaire du PS, coupable à leurs yeux de se vendre au président pour un Marocain ministériel. Un Marocain, ça veut dire un poste ministériel. Olivier Faure déchire le programme du NFP et se met à disposition de Macron pour assurer la continuité du macronisme. Grince ainsi sur X le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard. Olivier Faure et le PS font le choix de se mettre à la disposition de Macron pour prendre la place qu'occupait Bayrou. Ils donnent la consigne de répondre oui à tout socialiste qui serait sollicité pour le poste de Premier ministre. Tondelier et Roussel suivent. Quel incroyable retournement de veste, a écrit de son côté Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, donc pour Jean-Luc Mélenchon, le divorce, il est pas seulement avec le PS, il est aussi avec les écologistes et les communistes. Ah oui, donc grosse séparation du NFP. Interrogé par Libé, l'entourage de la secrétaire nationale des écologistes ne se montre pas inquiet. Ce que dit Olivier Faure me paraît clair, et je ne vois pas du tout un gouvernement macroniste PS, juste avant les municipales, et alors que les socialistes ont mis 10 ans à se défaire du bilan Hollande, et encore, poursuit ce proche de Tondelier. Oui, donc les proches de Tondelier, ils sont, semble-t-il, rassurés, en tout cas pas inquiets, du fait qu'il n'y aura pas d'alliance entre les macronistes et les socialistes, si d'aventure les socialistes sont appelés à former un gouvernement, quoi. En effet, malgré les convoitises macronistes et les accusations de traîtrise insoumise, les socialistes se montrent jusqu'ici extrêmement fermes. Si d'aventure Emmanuel Macron venait à nommer l'un des leurs à Matignon, l'heureux élu serait le leader d'une équipe uniquement composée de figures de gauche. Je ne veux pas demain un gouvernement qui serait en même temps de droite et de gauche. Je veux un gouvernement de gauche, a ainsi précisé Olivier Faure, mardi soir sur LCI. Pour convaincre Emmanuel Macron, les Roses ont expliqué être prêts à renoncer au 49-3 pour trouver des majorités texte par texte au Parlement. Et bah bon courage mes copains, on va en reparler de ça. Sur la base toutefois de leur projet de budget dévoilé à Blois. Une recherche de compromis obligatoirement synonyme de compromission avec les macronistes, estiment les insoumis. Ces derniers n'excluent d'ailleurs pas de censurer un gouvernement qui pourrait être dirigé par la gauche. Donc peut-être, mais ça c'est pas encore sûr, peut-être que les insoumis pourraient censurer un gouvernement socialiste, mais ils l'ont pas encore affirmé. Ils ont dit qu'ils ne le soutiendraient pas, mais entre ne pas soutenir et censurer, il y a un gap. M'étonnerait que LFI censure. Moi aussi, ça m'étonnerait que LFI censure, en tout cas dans un premier temps. On verra à l'approche de la présidentielle. Conscient que les socialistes ne plieront pas, François Bayrou ne se fatigue plus à proposer la moindre concession envers eux. Au contraire, le Béarnais répète chaque jour que leur contre-projet n'est pas satisfaisant. Ce que les socialistes proposent, ce n'est pas diviser l'effort, c'est décider qu'on va à nouveau emprunter 20 et quelques milliards d'euros supplémentaires, a-t-il expliqué mercredi sur RMC et BFM TV. Au même micro, le chef du gouvernement a aussi une nouvelle fois critiqué la ligne du PS et de son premier secrétaire. Est-ce qu'il est logique, cohérent, de dire « je vais abattre votre gouvernement et après vous me soutiendrez » ? Je ne suis pas sûr que ça marche, parce qu'il y a un minimum de logique dans la vie. La démarche d'Olivier Faure, dont il ne fait pas mystère qu'il veut devenir Premier ministre, cette démarche me paraît risquée. Et moi, je suis assez d'accord avec François Bayrou sur cette phrase-là. De dire qu'il y a un problème de cohérence chez les socialistes qui consiste à dire « on censure » on n'accorde pas la confiance, mais ça revient au même, à François Bayrou. Par contre, on espère que les macronistes vont, de leur côté, accorder la confiance à un gouvernement socialiste. À mon avis, il ne faudra pas compter sur les députés du Modem, par exemple. Alors ok, ce n'est pas les plus nombreux, ce n'est pas déterminant, les députés du Modem. Mais enfin, ils sont quand même macronistes. Donc est-ce qu'on aurait une scission du macronisme en deux courants, un courant qui refuse de soutenir les socialistes et un courant qui accepte de les soutenir moyennant négociations ardues. C'est pour ça que... Enfin... C'est pour ça que j'ai écrit ce titre de stream, c'est que j'ai du mal à imaginer... un gouvernement socialiste... Socialist and Friends, voilà, disons Socialist and Friends, donc personnalité de la société civile, communiste, écologiste, etc. Parce qu'ils vont se faire écraser entre leur gauche, la France Insoumise, qui va leur faire un procès en trahison en permanence, ça c'est sûr, et les rappeler au bon souvenir du programme du NFP, et de l'autre côté les macronistes, qui vont tout faire pour éviter la dislocation du bilan du macronisme. Après, le Bloc central a tellement donné de leçons de stabilité à tout le monde qu'ils vont avoir du mal à expliquer pourquoi ils font tomber des gouvernements de gauche tous les trois jours. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est un bon argument que tu avances. Mais tu remarqueras qu'il y a une différence entre ne pas faire tomber un gouvernement et ne pas lui péter les burnes. Surtout si les socialistes annoncent leur volonté de ne pas avoir recours au 49-3. Alors là, bon courage. Si t'as pas recours au 49-3, ça veut dire vote texte par texte, y compris sur les budgets, négociation jusqu'à minuit, psychodrame à chacune des projets de loi, menace de démission, menace de censure dans tous les sens. On verra. Ça veut dire qu'il faut 289 voix pour voter ton texte. Hein. La gauche sans LFI, combien de bataillons dans l'hémicycle ? Pas grand-chose. Bah si, quand même, parce que la gauche sans LFI, c'est plus d'une centaine de députés. Donc c'est plus que le groupe LFI. Macron ne nommera jamais un gouvernement juste PS. Bah, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que ça me fait douter quand même sérieusement. Je doute quand même sérieusement parce que... Macron ne perd pas la main. Macron a une position centrale dans l'hémicycle. Donc il peut se permettre de faire et défaire les majorités, évidemment, il est faiseur de roi. D'ailleurs, il peut se permettre de faire ou défaire Matignon. Donc ça m'étonnerait effectivement que les deux dernières années de la présidence d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron file les clés du camion aux socialistes, avec le risque que les socialistes défassent le bilan du macronisme, notamment en matière économique et sociale. L'abrogation de la réforme des retraites, etc. Après, Macron, c'est un ancien ministre de Hollande. Mais ça change rien, ça. Un gouvernement full gauche, j'y crois vraiment pas. Ça voudrait dire que Macron accepte de ne plus représenter dans la politique du pays, j'y crois pas. Je suis d'accord avec toi parce que, en fait, ce que ça désigne, c'est une cohabitation. Ça voudrait dire qu'Emmanuel Macron accepterait de se retrouver en cohabitation. Salut Luma! Des bisous Luma! Merci pour le raid. Merci pour le raid. J'en profite pour vous rappeler, hein, pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai déjà dit, mais la rentrée de Backseat se fera en direct de la fête de l'UMA. Ce sera le samedi 13 septembre. Inscrivez-le dans votre agenda. Fin d'après-midi, fin de journée. On est encore en train de caler les horaires, ça devrait être 19h, mais on est encore en train de caler ça. On communiquera sur les réseaux sociaux, évidemment, pour vous tenir au courant. Soyez là pour une émission spéciale. Non seulement ce sera la fête de l'humanité, mais en plus ce sera en partenariat avec Saïra, le talk show de Luma sur Twitch. Donc ce sera un mash-up entre Backseat et Saïra. Est-ce que les donateurs ont encore des prix cette année ou pas? C'est une bonne question, je n'ai pas encore la réponse. Je n'ai pas encore la réponse. T'as pas une place de camping à dépanner par hasard, non? Désolé. Désolé, désolé. Ça ira Backseat. Ouais, ça ira Backseat, exactement. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? On était en train de constater collectivement que les socialistes, malgré leur bonne volonté, n'ont pas vraiment les moyens de leur ambition. On va dire ça comme ça. Un gouvernement 100% socialiste, en tout cas 100% de gauche, sans participation des macronistes, et avec en prime le soutien des macronistes, ou à minima la non-censure des macronistes, bon courage. C'est samedi ou vendredi, Bexit Aluma? C'est samedi. J'ai dit quoi? J'ai dit vendredi? Non, non, c'est samedi, c'est samedi. Le 13. Putain, t'es en train de me faire douter de tout, là. Non, le 13, c'est samedi. C'est bon. C'est bien ce que j'ai dit. C'est bien tout le problème, non? Personne n'a les moyens de ses ambitions dans cette assemblée. Ouais. C'est juste ce que tu dis. C'est juste. François Bayrou n'a pas les moyens de ses ambitions. On le verra de manière éclatante lundi prochain. La gauche n'a pas les moyens de ses ambitions. Qu'elle soit unie ou désunie, ça change rien. L'extrême droite n'a pas les moyens de ses ambitions. C'est l'heure de la représentation graphique des partis sur ton site favori. Non, 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 il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Et avec les présidentielles, personne ne va faire de concessions. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Il faut garder en tête, effectivement, qu'on est dans un cycle politique de la fin du macronisme et de l'avènement d'une nouvelle ère qui commencera en 2027. Les couteaux sont aiguisés. Les appétits sont aiguisés autant que les couteaux et on se dirige vers une bataille de l'élection présidentielle en 2027 et dans une perspective de campagne présidentielle, personne ne veut faire de concessions. Et personne ne veut être mouillé. Parce que c'est ça aussi le risque pour les socialistes. C'est de se retrouver à être les gestionnaires de faillite du macronisme. Après 8 ans de pouvoir macroniste, dans les 2 dernières années, si les socialistes vont au turbin avec les macronistes, une partie de l'opinion publique va considérer que les socialistes et les macronistes, finalement, c'est la même chose. Et ils ne pourront pas jouer sur les deux tableaux, les socialistes, à ce moment-là. Alors, ils pourront toujours, ils sortiront, c'est l'argument des socialistes. Depuis le début, c'est de parler de la responsabilité, du caractère, l'exercice du pouvoir, même dans des conditions difficiles, etc. Mais Est-ce que ça séduira des électeurs qui ont envie de changement? C'est pas sûr. L'opposition est bien plus confortable que le pouvoir. Ah oui, toujours, toujours. Mais bon, il y en a qui font de la politique pour exercer le pouvoir. Ils font tous les malins, mais c'est de l'estrade. Mais en vrai, personne ne veut y aller, ils attendent une dissolution. Il y en a plusieurs qui réclament une dissolution. Le RN réclame une dissolution, les Insoumis réclament une dissolution. Nicolas Sarkozy réclame une dissolution. Donc non, ça commence à... Mais qui est prêt à la dissolution? À qui ça profiterait la dissolution? Parce que s'il y a une dissolution demain, je vous rappelle qu'il n'y a toujours pas de scrutin proportionnel, hein, on est toujours au scrutin majoritaire par circonscription. Donc la gauche serait a priori désunie. Sauf miracle, la gauche serait désunie. Donc la gauche va perdre des députés. C'est tout bénef pour LFI? Bah, s'ils se retrouvent avec des candidats de gauche face à eux dans toutes les circonscriptions où ils se présentent, ça risque de leur empêcher d'arriver au second tour, ou alors de mal les qualifier dans une triangulaire. Donc non, c'est pas une bonne nouvelle pour LFI, non. Pas enfin, c'est une bonne nouvelle pour personne, à gauche. Finalement, Macron a peut-être intérêt à dissoudre si la gauche est fragmentée. Ah ben, ça ferait gagner le RN et rien d'autre. Faure, il a dit qu'il referait le NFP. Ah bon? T'as vu ça où? J'ai pas vu passer ça. Après la NUPES et le NFP, est-ce que l'union est toujours possible aux législatives? Bah, c'est toute la question qu'on est en train de poser. C'est-à-dire que si d'un côté, tu as le PS qui dit on ne veut pas gouverner avec LFI, et que LFI dit le PS a trahi, on ne veut pas continuer à bosser avec eux, elle est mal barrée, l'union. Les socialistes sont plusieurs à dire qu'ils retourneraient à un accord pour des législatives. Bah, dans le camp d'Olivier Faure, sans doute. Alors, c'est un truc aussi qu'il faut garder en tête, c'est important, c'est une subtilité, mais c'est important. Le Parti socialiste, il est divisé en deux. Il y a deux PS dans le PS. T'as le PS d'Olivier Faure qui est plutôt unioniste, donc qui est favorable à l'union avec les, y compris avec les insoumis, une union exigeante, négociée, etc. Certes, mais quand même. Et de l'autre côté, t'as toute une autre moitié du Parti socialiste qui, elle, est franchement hostile à la France insoumise et plutôt proche de Raphaël Glucksmann. Vous avez peut-être vu les déclarations de Raphaël Glucksmann hier, qui disait c'est mort, jamais LFI, plus jamais terminé, merci, au revoir, ce sera sans moi, etc. Donc Glucksmann qui est en train de se faire une identité politique sur le rejet de la France insoumise. Même les divisions de la gauche sont divisées. Ouais. Donc tout ça pour dire que tout ce dont on est en train de discuter, même les socialistes ne sont pas d'accord entre eux là-dessus. Même les socialistes ne sont pas d'accord là-dessus, sur les conditions d'un gouvernement, sur les alliances nécessaires et utiles, sur les conditions. Et à mon avis, on pourra se diriger vers une division, y compris du groupe socialiste à l'Assemblée. Enfin, pareil, si vous n'avez pas connu cette époque-là, c'était magique, mais le groupe socialiste à l'Assemblée, c'est une montagne de division, c'est formidable. On adore. la politique du pays qui se fait le mardi matin en réunion de groupe et ça s'engueule avec le Premier ministre. C'est qui les deux députés de Glucksmann, Aurélien Rousseau et l'autre? L'autre, c'est Aurélien Taché. Non. Comment il s'appelle le député place publique, là? Sacha Houlié. Merci, merci les copains. Sacha Houlié. Glucksmann n'a pas de. Enfin, je veux dire, place publique n'a pas présenté beaucoup de candidats. Lors de l'élection législative dernière, ils n'étaient pas partis de l'accord NFP. Ils ont grappillé des circos qui étaient fléchés PS, mais ils n'ont pas. Ils ont qu'un seul député, quoi. Enfin, ils ont deux députés avec Sacha Houlié. Non, Place Publique, c'est un parti qui a été créé principalement pour l'élection européenne en 2019 et en 2024. Avec succès dans les deux cas, plus en 2024 qu'en 2019, grâce au soutien du Parti socialiste notamment. Pourquoi pas un Premier ministre issu d'un homme ou d'une femme qui n'a pas de parti et qui compose avec des ministres PS macronistes? En fait, ne pas avoir de parti, ça ne veut pas dire grand-chose, surtout à ce niveau de pouvoir comme un Premier ministre. On s'en fout que tu aies un parti politique ou pas. L'enjeu, ce n'est pas les formations politiques, c'est les programmes politiques et les députés qui vont les voter. Donc en fait, nommer un Premier ministre, disons, ton hypothèse, ce serait un Premier ministre ou une Première ministre, disons, de la société civile, une personnalité en tout cas qui n'est pas marquée d'une appartenance partisane particulière. Et que cette personne aurait à composer un gouvernement avec toutes les bonnes volontés, etc. Mais ça marche. C'est pas qu'une question de bonne volonté, c'est une question de programme politique qui s'affiche. Donc, ce Premier ministre ou cette Première ministre, la première chose qu'il ou elle devra faire, c'est se rendre aux 20h de TF1 ou de France 2 pour répondre à des questions précises des journalistes sur qu'est-ce que vous allez faire, quel sera votre budget, quel déficit, quelle trajectoire de réduction des déficits. Quelles dépenses, etc. Donc en fait, le fait que tu aies un parti ou que tu n'en aies pas, ça change pas grand-chose. À la fin, tu seras soutenu ou pas par des groupes de députés. Quand j'entends issu de la société civile, j'entends pantouflage. Alors, faut surtout pas que tu entendes ça parce que c'est exactement l'inverse. Pantouflage, c'est le fait pour une personnalité politique d'aller se recycler dans le secteur privé, d'aller mettre ses pieds dans des pantoufles confortables à un poste bien payé où il va pouvoir faire profiter de son carnet d'adresses à des gens. C'est ça le pantouflage. Une personne de la société civile qui fait de la politique, c'est littéralement l'inverse. Donc, c'est une personne qui vient de l'extérieur du monde politique. Donc du monde civil, du monde associatif, du monde syndical, du monde de l'entreprise, du monde du travail, etc. Et une personne qui rentre en politique pour faire de la politique. Donc c'est littéralement l'inverse que le pantouflage. Le chaussurage, l'escarpinage. J'avais un autre truc à écouter avec vous, parce que toujours dans ces réflexions, on va continuer ces réflexions ensemble de quels moyens pourraient avoir les socialistes éventuellement pour se retrouver en situation de pouvoir la semaine prochaine. Il y en a un qui m'a surpris, dis donc, c'est Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui fait son retour médiatique. Après sa défaite face à Bruno Retailleau pour la présidence du parti, je vous rappelle que Laurent Wauquiez est toujours le président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Et il a déclaré dans BFM TV, au micro d'Apolline de Malherbe.
Prenons le même scénario dans l'autre sens. Olivier Faure d'un côté, Jordan Bardella de l'autre. Vous censurez pareillement?
Non, et là-dessus, je veux être bien clair. On a pris un engagement, nous. On ne censure pas. C'est-à-dire qu'on ne censurera pas un gouvernement socialiste, on ne censurerait pas un gouvernement du RN. Pourquoi? J'essaie d'être cohérent avec ce que je vous dis. Je vous dis que je suis pour la stabilité politique. Nous ne faisons pas partie de ceux qui font tomber des gouvernements dans ce pays. Tout simplement parce que, quel qu'il soit, je pense que l'instabilité, c'est catastrophique pour le pays.
Nicolas Sarkozy estime que le RN...
Dis donc. Est-ce qu'on vient pas d'entendre le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée expliquer qu'il ne censurera pas automatiquement un Premier ministre socialiste? Intéressant, il l'a dit. Au demeurant, bah, les Républicains aussi, ils sont dans une tension. Hein. C'est pas évident pour les Républicains, parce qu'ils sont entre la tentation de reprendre une étiquette de droite assumée contre la gauche et de démarrer une hypothétique campagne présidentielle pour Bruno Retailleau sur ce thème-là, et la volonté de continuer à jouer le rôle de la stabilité dans une Assemblée nationale divisée. Et justement, visiblement, il est où l'article? Ah, il est là l'article. Il faut qu'on lise cet article parce que visiblement, cette déclaration de Laurent Wauquiez a été écoutée et entendue à la radio, comme ça, il était dans sa bagnole. Il roulait pour se rendre au bureau. Et il a pilé comme ça sur le frein quand il a entendu « On ne censurera pas les socialistes ». C'est Bruno Retailleau. Évidemment, Bruno Retailleau. Passe d'armes entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau sur la censure d'un éventuel gouvernement socialiste. Alors que le président des députés LR a assuré que son groupe ne censurerait pas un gouvernement PS au nom de la stabilité du pays, de la stabilité politique, le président du parti a, lui, déclaré qu'il ne pouvait pas y avoir de chèque en blanc. Aha ! Grosse tension à nouveau entre les deux anciens adversaires à la tête du parti. À 4 jours du vote de confiance qui devrait, sauf surprise, entraîner le départ de François Bayrou de Matignon, les partis politiques planchent déjà sur l'après. Quitte à afficher leurs divergences publiquement, comme chez les Républicains. Invité de BFM TV et RMC, jeudi 4 septembre, le président des députés LR, Laurent Wauquiez, a assuré que le parti de droite ne censurera ni un gouvernement PS, ni un gouvernement RN, pour éviter une instabilité catastrophique. « Nous ne faisons pas partie de ceux qui font tomber des gouvernements dans ce pays, tout simplement, parce que je pense que l'instabilité est catastrophique pour le pays », a-t-il affiché. Mais quelques heures plus tard, le président des Républicains et ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a affirmé dans un message posté sur X qu'il ne pouvait pas y avoir de chèque en blanc. Si un gouvernement socialiste devait mener une politique contraire aux intérêts de la France, le devoir de la droite serait de l'empêcher, a-t-il prévenu. Pour le sénateur vendéen, si LR a accepté d'entrer au gouvernement, c'est justement pour empêcher la gauche d'accéder au pouvoir. Une sortie fustigée par le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Bah oui, parce que les Républicains, selon Bruno Retailleau, ont accepté de rejoindre les macronistes dans un attelage gouvernemental depuis 2024 pour éviter que ce soit le NFP qui gouverne. Parce que le socle commun a plus de députés que le NFP. Bruno Retailleau s'opposerait à un gouvernement de gauche, mais visiblement un gouvernement d'extrême droite ne le choquerait pas, a-t-il ironisé en parlant de Olivier Faure. Selon l'entourage de M. Wauquiez auprès de l'agence France Presse, le patron des députés LR a défini cette ligne dès l'été 2024, après la dissolution, lorsqu'il s'était engagé à ne censurer d'office aucun gouvernement, sauf s'il y a des ministres LFI. Mais évidemment, on ne s'interdit rien ensuite en fonction de la politique qui est menée, ajoute cette source. Ah, donc en fait, c'est que sémantique, la discussion entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Pas de censure a priori. Mais par contre, on censure 3 mois plus tard quand on voit que les mecs commencent à faire des trucs de gauche, quoi. Ouais, logique. Ça se justifie mieux. Concernant un éventuel gouvernement dirigé par le Rassemblement National, le député LR de Haute-Loire a estimé que le parti d'extrême droite fait partie de l'arc républicain. tout en reprochant au mouvement dirigé par Jordan Bardella de ne pas vouloir régulariser l'assistanat. Un parti qui se présente à des élections, qui a des élus et qui n'est pas interdit et qui est légal, bien sûr qu'il est dans l'arc républicain. Ah bon ? A affirmé celui qui a plaidé ce printemps pour une alliance des droites allant de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. Ah bah forcément. Si tout ce qui est légal est souhaitable, oui. Après le vote de confiance de lundi à l'Assemblée qui devrait acter la chute du gouvernement, M. Wauquiez s'est aussi déclaré déçu par François Bayrou, qui ne s'est pas engagé publiquement à revenir sur la suppression de 2 jours fériés, alors qu'il lui avait donné son accord lors d'une réunion avec la direction de LR mardi à Matignon. Ça, c'est moche, ça. J'espère qu'aujourd'hui ou demain, ce sera clarifié de façon beaucoup plus nette, a ajouté le député de Haute-Loire, laissant entendre que tous les députés LR ne suivraient pas dans ces conditions les mots d'ordre du parti et de M. Retailleau pour soutenir le chef du gouvernement. Ouais. À l'intérieur, aujourd'hui, des Républicains, si jamais la voix de la France qui travaille n'est pas entendue, il y a un grand nombre de députés qui ne voteront pas la confiance, a-t-il assuré, précisant que lui-même la voterait sans enthousiasme, mais par esprit de responsabilité. Est-ce que Laurent Wauquiez va revenir sur ses déclarations et finalement les députés... Alors c'est vrai que les députés LR, ils sont divisés, hein, clairement. On va le voir d'ailleurs lundi au moment du vote sur la confiance de François Bayrou. Tous les députés LR ne vont pas voter la confiance à François Bayrou. Laurent Wauquiez va le faire par esprit de responsabilité et sans enthousiasme, comme il a dit lui-même, mais il y en a quand même un paquet qui ne vont pas le faire. Donc... Étonnamment, Wauquiez a une attitude plus gaullienne que Retailleau. Ouais. Ouais, mais Retailleau, il n'a pas le même agenda que Wauquiez. Retailleau, il est parti vers une candidature à l'élection présidentielle. Donc Bruno Retailleau, il a un enjeu d'image et d'affirmation d'une identité de droite. C'est pour ça qu'il a fait sa campagne sur la France des honnêtes gens, une fois qu'il a été élu président des Républicains. Est-ce que la démission du gouvernement va tuer dans l'œuf le mouvement social ? Tu parles du mouvement du 10 septembre ? J'en sais rien. Est-ce qu'il n'est pas déjà mort dans l'œuf ? On peut en parler aussi, parce que... Ouais. En fait, il n'a pas encore eu lieu, ce mouvement. On ne sait pas encore quelle forme il va prendre. A priori, on n'est pas parti pour des grands cortèges de manifestations, mais pour des trucs plus coup de poing. Plus épisodiques aussi, on verra. J'ai pas l'impression que les gens qui font partie du mouvement du 10 septembre soient tant attachés que ça à la personne de François Bayrou, tu vois. Je pense que c'est plutôt Emmanuel Macron qui solidifie cette colère-là. Sur les réseaux, ça a l'air de se mobiliser fort, en tout cas. Ouais, toujours pareil, je remets pas ça en question, je me demande quelles sont les métriques qui permettent de voir ce que c'est qu'une mobilisation en ligne. C'est quoi une mobilisation en ligne ? Enfin, tu vois, c'est toute la difficulté d'ailleurs d'une mobilisation qui doit se retrouver dans la rue au bout d'un moment, pour compter le nombre de manifestants, quoi. Est-ce que Marine Le Pen peut devenir première ministre, même inéligible ? Oui. Ministre, ce n'est pas un mandat, c'est une fonction. Donc si vous êtes inéligible, vous ne pouvez pas candidater à un mandat. Mais vous pouvez faire une fonction. Il n'y a pas de préavis de grève déposé pour le 10. Il y a quelques préavis de grève qui ont été déposés dans le 10 dans certains secteurs d'activité, mais la grève intersyndicale a été commandé pour le 18. Ça me fait penser aux personnes qui parlaient d'envahir la Pologne, qui parlaient d'envahir la zone 51 aux États-Unis. Oui, Storm Area 51. Je me souviens. Ça se mobilisait fort en ligne aussi. Au Naruto Run, oui, c'est ça. Le Naruto Run, la zone 51. Il y a, on va écouter la chronique que j'ai bien aimée, la chronique de Patrick Cohen ce matin dans France Inter. Je trouve que c'était plutôt pas mal.
La grande matinale sur France Inter.
Et c'est l'édito politique Patrick Cohen. Et si l'issue de la crise passait par l'arrivée du RN au pouvoir?
C'est la petite musique qui monte ici et là. Et si Bardella à Matignon, assis sur une majorité même relative de députés RN, était le mieux à même d'offrir à ce pays un peu de stabilité politique? Ne pourrait-on pas sortir de l'impasse en essayant ceux qui n'ont jamais gouverné? N'est-ce pas leur tour? Voilà la rengaine qui monte de plus en plus fort au milieu de la mélasse. D'abord dans les milieux patronaux, quand on demande au président du MEDEF de citer les chefs de parti les plus conscients des périls économiques et que Patrick Martin répond Attal, Retailleau et dans une certaine mesure Bardella, c'est un cran de plus vers la normalisation. Non seulement le RN ne fait plus peur, mais le voici rangé dans le camp des raisonnables, davantage que la gauche, même pas cité. Donc apte à gouverner et même à éviter une crise de régime, un comble pour un parti qui veut tout renverser et qui a fait se dresser contre lui l'an dernier un barrage de 17 millions d'électeurs. À cela, certains patrons se résignent, d'autres y travaillent, comme le montre le journaliste Laurent Mauduit dans Collaboration, une enquête sur l'extrême droite et les milieux d'affaires à paraître la semaine prochaine à La Découverte.
Le RN, Patrick, désormais légitimé par Nicolas Sarkozy.
Un orchestre à lui tout seul, même démonétisé dans son propre camp, même sous la menace d'une condamnation à de la prison ferme dans l'affaire libyenne, jugement dans 3 semaines, l'ancien président normalise le RN comme aucun autre homme d'État ne l'a fait avant lui. Si l'on résume son propos dans le Figaro d'hier, il faut dissoudre. Le Front républicain, cette fois, ne marchera pas, ce qui dégagera une majorité, au moins relative, et donc une majorité RN, parti qui, dit-il, appartient à l'arc républicain, et ce serait mieux que la situation actuelle. Voilà, on ne peut être plus clair. On sait que Le Pen et Bardella cherchent à draguer les chefs d'entreprise et les retraités. Bah, ils peuvent se vanter d'avoir emballé un retraité de surcroît ancien chef d'État.
Et il n'y a pas une part de règlement de compte chez Sarkozy?
Bien sûr que si, contre Bayrou qui a fait voter Hollande en 2012, contre Macron qui n'a rien fait pour empêcher le retrait de sa Légion d'honneur, etc. Mais il faut écoutez Nicolas Sarkozy, l'homme qui avait siphonné l'électorat de Jean-Marie Le Pen en 2007, 50 ans de politique au compteur. Il faut l'écouter comme l'ont fait Jordan Bardella et Sébastien Chenu, reçus tour à tour début juillet dans son bureau de la rue de Miroménil. Au second, il a dit « Vous ne devez pas avoir peur des élections anticipées, vous ne pourrez pas arriver au pouvoir, c'est-à-dire à l'Élysée, tant que vous n'aurez pas prouvé que vous êtes capable de gagner des élections à 2 tours et de gouverner. » Voilà, nous y sommes, la nouvelle stratégie du RN, faire tomber tous les gouvernements à venir jusqu'à obtenir un retour aux urnes, acculer Emmanuel Macron à la dissolution pour gagner Matignon, bah c'est pratiquement le plan Sarkozy.
Je suis d'accord avec Patrick Cohen sur le côté « il faut écouter Nicolas Sarkozy ». Quand il explique et quand il franchit ce Rubicon historique à droite hein, du Front républicain, du rejet du Front républicain et du fait d'assumer, de dire que le RN a sa place au pouvoir et qu'il doit se faire les dents à l'exercice de l'exécutif avant d'arriver à l'Élysée. On va regarder dans la fameuse interview dans le Figaro de Nicolas Sarkozy, on va pas tout lire, mais on va regarder un petit peu ce passage sur l'analyse que propose Nicolas Sarkozy de la séquence politique. La désastreuse dissolution de l'année dernière a agi comme une bombe à fragmentation. La question c'est comment sortir de la crise. La désastreuse dissolution de l'année dernière a agi comme une bombe à fragmentation. Après de longs mois d'instabilité, nous sommes aujourd'hui dans l'un des derniers soubresauts de cette funeste décision. J'ai eu l'occasion de le dire au président de la République cet été. Je suis persuadé qu'il n'y aura pas d'autre solution que la dissolution. Il serait curieux d'avoir choisi de dissoudre hier, quand rien ne l'exigeait, et de s'y refuser aujourd'hui, quand la décision s'impose. C'est marrant, je suis d'accord avec Nicolas Sarkozy. C'est un bon point. Alors franchement, en 2024... rien n'oblige à dissoudre, et tu l'as fait quand même. Et alors là, tout oblige à dissoudre, tu vas nous expliquer que... Ah non, faut pas dissoudre. Trop tard, mon gars. La politique doit respecter le bon sens et obéir à des règles auxquelles il faut se soumettre. Oui. Des élections législatives anticipées vont donc sans doute avoir lieu d'ici quelques semaines. C'est la seule clarification possible. Si un nouveau barrage se remet en place, ne risque-t-on pas de s'enliser dans le blocage ? Je suis persuadé que la stratégie du Front républicain ne marchera pas une deuxième fois. quand bien même ce front se reconstituerait, je pense que les Français ne suivront pas ceux qui le porteront. Ah. Est-ce à dire qu'il n'y aura pas une majorité absolue pour autant ? Je ne le crois pas. Mais s'il n'y a pas de front républicain comme je le pense, les conditions peuvent être réunies pour dégager une majorité, au moins relative, ce qui serait mieux que la situation actuelle. Ok, bon bah François, Nicolas Sarkozy plaide carrément pour la fin du front républicain. Une majorité du RN ? Sortons de l'hypocrisie et du mensonge. En 2012, François Hollande a été élu président avec les voix de Marine Le Pen, qui avait appelé à voter contre moi. Je n'ai pas le souvenir qu'il les ait refusés alors. Quoi ? Quoi ? Non ? Je suis pas sûr que les électeurs du RN aient voté pour François Hollande contre Nicolas Sarkozy. Je pense déjà à l'époque, vous étiez proches, hein, je te rappelle. D'accord. À l'époque, ces suffrages étaient donc républicains. Ah oui, d'accord. C'est ça l'argument derrière. Durant toute ma vie politique, je n'ai jamais fait d'accord avec le Front National, ni avec Le Pen, père ou fille. Et ils m'ont toujours considéré comme leur principal adversaire. Principal, je ne suis pas sûr. Ils avaient bien raison d'ailleurs, car les seules fois où ils n'ont pas été au deuxième tour de la présidentielle depuis 25 ans, c'est lorsque j'étais candidat, 2007. Je n'ai donc aucune leçon à recevoir en la matière. Mais le RN est un parti qui a le droit de se présenter aux élections. Il peut donc aussi les gagner si c'est le choix des Français. À mes yeux, ils appartiennent à l'arc républicain. Bon, et après, il parle de la rentrée de la droite, etc. Bon, à part, je trouve ça très fumeux, ces explications historiques sur, à l'époque, en 2012, c'est vrai, ça, la gauche n'arrive au pouvoir que grâce à l'extrême droite, etc. Je ne suis pas d'accord. Mais à part ça, sur le fond de sa pensée et sur l'idée selon laquelle le RN est mûr pour exercer le pouvoir, je pense que c'est une pensée qui est assez partagée par l'électorat de droite, l'électorat du RN évidemment, mais pas seulement. Et on l'a vu notamment avec le RN qui drague les milieux économiques, par exemple. On a vu que Patrick Martin, le patron du MEDEF, s'est montré assez conciliant avec Jordan Bardella. Il a expliqué que Jordan Bardella avait un bon diagnostic de la situation, etc. Hélas, Sarko a un bon flair. On verra si Sarko a un bon flair s'il y a une dissolution. S'il y a une dissolution dans les prochaines semaines, les prochains jours, là. Déjà, ce sera en direct sur ma chaîne Twitch, c'est déjà important de le préciser. Mais en plus, on pourra dire qu'effectivement, Sarkozy a eu du pif sur ce truc, sur ce coup-là. On pourra aussi dire que Jean Massier a eu du pif parce que je l'avais dit avant lui. Mais on dira bien ce qu'on voudra. Pourtant, Jordan a été cata lors du plateau du MEDEF. Ah ouais, j'ai pas trouvé, moi. Bardella, au débat du MEDEF, son cerveau fondé à chaque réponse. Ah ouais, vous trouvez ? Moi, j'ai regardé le débat du MEDEF, hein. Je l'ai regardé en entier, c'était super intéressant. J'ai pas trouvé que Jordan Bardella se liquéfiait sur ses réponses. Il faisait des réponses que je trouvais tout aussi démagogiques que ses deux voisins. Enfin, je veux dire, Attal et Retailleau n'étaient pas meilleurs, quoi. Retailleau qui faisait des lapalissades anticommunistes un peu basiques. Ouais, chef d'entreprise contre la bureaucratie et tout. Oui, oui, d'accord. Après, c'est l'université du MEDEF, on est là pour avoir des applaudissements, hein. C'est comme à la fête de l'Huma. Hein. Fête de l'Huma, vous levez le poing, vous dites « Ouais, capital, travail, tonnerre d'applaudissements et tout. » C'est normal, t'es là pour ça. C'est comme ça que ça marche. Donc ouais, non, université du MEDEF, je sais pas. Camarade. Marine Tondelier à Slay, par contre. Mais Marine Tondelier, elle n'est pas du tout dans le même registre. Marine Tondelier, elle est dans le registre de la bonne copine. Vous avez remarqué quand même que Marine Tondelier, en interview, souvent, dans plusieurs exercices, elle est dans la création. Je pense que c'est efficace, hein, mais elle est dans la création d'une connivence avec le public sur le côté « on se comprend, on est ensemble ». Et en plus, quand elle est la seule meuf du plateau, comme c'était le cas au MEDEF, elle s'en sort particulièrement bien, je trouve. Ça la rend sympathique. Oui, voilà, c'est ça. Il y a une sympathie. Il y a une bonhomie qui est attachée à la figure de Marine Tondelier. J'ai tendance à considérer Glucksmann au PS alors qu'il n'est pas avec son parti. Est-il si proche ? Glucksmann ? Oui, Glucksmann est proche du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste a soutenu Raphaël Glucksmann aux élections européennes en 2019 et en 2024. Voilà. C'est déjà pas mal. Mais après, techniquement, Glucksmann n'est pas au Parti Socialiste. Il est dans un autre parti qui s'appelle Place Publique. Et il n'est pas pote avec tout le PS. Il y a une partie du PS qui est pas tout à fait Glucksmann compatible. Ce matin, il parlait comme s'il était au PS en parlant d'LFI. Ce matin, il a fait sa rentrée dans l'IB, non ? J'ai pas vu. Glucksmann. Ouais, c'est ça. Il a fait une interview dans l'IB. Je l'ai pas lu, je vous avoue. Et là, j'ai la flemme de me lancer dans la lecture d'une longue interview. Je le ferai ce soir en me couchant. Mais non, la parole de Raphaël Glucksmann n'engage pas le Parti Socialiste, quoi. Il était sur une radio. Ah, il était dans France Info. D'accord, il était dans France Info. Eh bien, j'écouterai l'interview dans France Info de Raphaël Glucksmann. Il faut que j'écoute Darmanin aussi. Il faut que j'y pense. Il faut que j'écoute Darmanin dans sa rentrée politique, là, quand il a fait son virage social. J'ai l'impression que le tout début de hype européenne 2023 de Glucksmann est complètement retombé. Ah bah oui ! Ah bah, la dissolution ! Je vous rappelle que la dissolution a fait énormément de mal à Raphaël Glucksmann. Je vous rappelle que on est au soir des résultats de l'élection européenne. À 20h, on a les résultats qui tombent. Raphaël Glucksmann est devant la France Insoumise, donc il est leader à gauche. À 20h40, Emmanuel Macron annonce la dissolution. Plus personne ne parle des européennes. Ça a duré 40 minutes. C'est même pas le temps d'une interview. Même pas le temps de... Non. On était retombé dans une campagne dès 20h40. Ils lui ont volé son buzz. Ils lui ont niqué son buzz. Alors ça, Raphaël Glucksmann qui voulait rebâtir la gauche. Excuse-nous, hein. Du coup, nouveau Front Populaire. Ah bah oui, on va faire alliance avec les Insoumis. Bah oui, t'es con. On veut pas filer le pouvoir à l'extrême droite. Donc tes idées, là, machin, tu te les gardes, Raphaël. Enfin, c'est sans rancune, hein. Qui à gauche veut d'une gauche rebâtie par Glucksmann ? Ah bah, si on se base sur les résultats des élections européennes, ça représente du monde quand même. Si on se base que sur ça. Mais t'as raison, c'est intéressant. Qu'est-ce que Raphaël Glucksmann est capable de faire comme score à une élection, par exemple, présidentielle ? Vous le saurez en 2027 ? Moi, j'en sais rien. Parce que la stratégie Glucksmann qui consiste à taper sur la France insoumise, à dire que LFI est en dehors de l'arc républicain, qui sont des gens infréquentables, des antisémites, etc., peut-être que c'est une stratégie qui peut marcher auprès d'un certain électorat. Des déçus du macronisme, par exemple. C'est à quelle heure lundi ? C'est à 14h sur ma chaîne. Mmh. sa stratégie ne se résume pas à ça, please. Non, bien sûr que non, sa stratégie ne se résume pas à ça, mais en termes d'écriture, d'une narration sur la construction d'un costume à gauche, anti-LFI, social-démocrate assumé, réformiste, à la recherche de compromis, etc. Raphaël Glucksmann, j'ai l'impression qu'il se pose là quand même. Il essaye. Est-ce que ça peut marcher électoralement? Ça, j'en sais rien. Faudra qu'on voit les résultats. Faudra qu'on voit ce que l'électorat de gauche en pense. J'écouterai le vote de confiance lundi entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Malo à vélo. Oh! Stylé! Eh ben, très bonne idée. La ligne proche de Glucksmann, c'est celle qui a perdu au PS. Ouais, mais de pas beaucoup. La ligne Glucksmann au Parti Socialiste, c'est quand même 48% des socialistes. L'électorat de gauche en pensera que c'est de la merde vu que Glucksmann est un gros libéral. Continuez à l'insulter, c'est important. Vous savez, pour la stratégie Glucksmann, il a besoin de cette opposition permanente. Hein. Continuez. C'est bon pour lui. 48% des 37 personnes. Non. Il y avait combien? Il y avait plusieurs dizaines de milliers de votants. Glucksmann se présente contre le PS au présidentiel alors qu'il était leur candidat aux européennes. Eh bien, c'est possible. En tout cas, c'est intéressant, parce que maintenant qu'Olivier Faure a gagné face à la ligne Glucksmann au Parti Socialiste, ce ne sera pas Raphaël Glucksmann qui sera le candidat du Parti Socialiste, en tout cas pas automatiquement, pour l'élection présidentielle en 2027. Le Parti Socialiste est engagé dans un processus d'union de la gauche. Vous savez, les unionistes, là, derrière Marine Tondelier, Lucie Castet, qui veulent organiser une primaire. Il y a François Ruffin aussi qui a dit qu'il participerait à cette primaire. Et bien, cette primaire, les socialistes, pour l'instant, sont partie prenante des discussions. Si Raphaël Glucksmann veut se présenter à la primaire, libre à lui. Hein. Mais à mon avis, Raphaël Glucksmann ne se présentera pas à cette primaire. Donc, ce ne sera pas le candidat du PS à la présidentielle. Je vois pas la différence entre Glucksmann et Faure. Olivier Faure, il fait des alliances avec LFI alors que Glucksmann considère qu'LFI sont infréquentables. C'est en grande partie une différence de stratégie, ouais, et de positionnement tactique. Et du coup, il va faire campagne avec quel appareil politique si le PS ne le soutient pas? Eh bien, je vous ferai remarquer que l'histoire a démontré qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un gros appareil politique pour remporter une élection présidentielle. N'est-ce pas, Emmanuel Macron? Moi, je pensais, pendant longtemps, je pensais qu'une candidature solide à une élection présidentielle devait émaner d'un parti politique solide, sous-entendu, existant depuis longtemps, avec des cadres, avec une assise territoriale, voire une expérience du pouvoir au niveau national ou au niveau local. Et bien ça a été vrai jusqu'à ce que de nouvelles formations politiques émergent, notamment portées par des candidatures présidentielles. C'est le cas de la France Insoumise, c'est le cas du Rassemblement National. Et puis le pompon, ça a été 2017, avec Emmanuel Macron, qui en un an t'a sorti un parti politique de nulle part et a présenté une candidature à la présidentielle qui s'est avérée victorieuse. Est-ce que les deux lignes du PS sont d'accord pour leur programme, sur leur programme, ou si c'est juste deux partis politiques différents qui ne veulent pas lâcher le nom PS ? Mais le PS a toujours été divisé. Hein. L'histoire du PS, c'est un siècle et demi même. Non, un siècle. D'histoire de courants politiques différents. Et à la fin, il y a une synthèse qui est faite entre les différents courants. Il y a un compromis qui est trouvé entre les différents courants. Notamment à l'occasion des congrès. Et je vous rappelle qu'il y avait Dominique Strauss-Kahn et Jean-Luc Mélenchon au Parti Socialiste pendant des années et des années. Ça ne les dérangeait pas. C'était même pire que ça. Jean-Luc Mélenchon était ministre dans le même gouvernement que Dominique Strauss-Kahn. C'est encore plus précis. Et à la fin, c'est Hollande qui réunit les gens. Ah, la synthèse hollandienne. Hollande, c'était l'homme de la synthèse. C'était le socialiste qui réussissait à garder uni le parti après les divisions de 2005, notamment. Le RN est le seul à avoir les moyens de gouverner. Le RN ? Je suis désolé de doucher tes espoirs, mais le RN, ils ont 124 députés et aucun allié. Déjà que François Bayrou a plus les moyens de gouverner. Le nouveau Front Populaire encore moins. Alors le RN encore moins. Donc ouais, non. Le RN n'a pas les moyens de gouverner. Éventuellement à l'issue d'une dissolution. Ah bah en cas de dissolution, effectivement, ça rebat les cartes, par définition. Nouvelle élection, nouveaux députés, nouveaux équilibres. Live sur la chaîne Twitch de Jean Massier. On s'abonne, let's go. Donc oui, bien sûr, bien sûr. Nouvelle dissolution... Ouais. Mais les Républicains, est-ce que les Républicains seraient de nature à faire une coalition gouvernementale avec le RN ? Je ne suis pas persuadé. Est-ce que pour autant, ils pourraient se mettre d'accord sur un accord de non-censure minimal, une abstention de censurer ? Oui, mais encore une fois, ça dépendra beaucoup des équilibres de la prochaine Assemblée. Avec un regard extérieur et historique, tu trouves ça intéressant comme période politique ou plutôt chiant au final ? Non, c'est intéressant, c'est clairement intéressant, je veux dire. On vit une période d'instabilité parlementaire. Bon, ça fait des décennies qu'on a oublié ce que c'était en France, l'instabilité parlementaire. On est en train de redécouvrir ça un peu. Ça apporte son lot de fatigue, évidemment, mais c'est moins fatigant que l'époque que moi j'ai bien connue, où il y avait une majorité qui, pendant 5 ans, faisait ce qu'elle voulait. C'était différent. C'était pas pareil. Le tempo n'était pas le même. Et puis par ailleurs, cette instabilité, elle est aussi source de vrais débats, de vraies discussions. La gauche a des vraies discussions en ce moment. Par-delà les insultes, il y a des questions structurelles, même si elles ne sont pas nouvelles à gauche, sur la stratégie, sur le positionnement politique. À droite aussi, ce que je suis en train de vous dire sur le Rassemblement National et ses relations difficiles avec les Républicains. Le bloc central, qui lui aussi a une histoire mouvementée depuis l'époque de l'UDF, de Valéry Giscard d'Estaing, etc., qui a revécu avec Emmanuel Macron. Moi, ce que je vous ai toujours dit, c'est que je considère par exemple que le macronisme ne va pas mourir avec la fin du quinquennat de Macron. Je pense qu'il y a toujours eu en France un centre démocrate chrétien, social-libéral, social-démocrate, etc., qui a toujours existé, qui a toujours été plus ou moins puissant, ça dépendait des années, Mais il y a eu des moments très importants. Et dans les années 90, si on avait été en stream, on aurait fait des streams sur les alliances entre le RPR et l'UDF. Donc voilà, le centre aussi a son histoire, quoi. Le macronisme va continuer via Attal ou Édouard Philippe. Oui, il y a des personnalités qui vont continuer à exister. Et par-delà les personnalités, il y a des mouvements politiques. Je veux dire, il y a des électeurs derrière. Il n'a pas disparu un temps, le centre, quand l'UMP a absorbé l'UDF, justement, avant la création du MoDem. Mais non, il n'a pas disparu du tout, parce qu'il y avait toujours des centristes à l'UMP. Évidemment, ils étaient toujours là. Et puis, par ailleurs, le MoDem, excuse-moi, mais la fondation du MoDem par François Bayrou, c'était quand même la résurgence d'un centre qui, justement, refuse de se mouler dans l'UMP. Donc non, il n'a pas disparu. Puis je te rappelle qu'il a fait un plutôt bon score à la présidentielle en 2012. 2007. Édouard Philippe, c'est la retraite à 67 ans et le matraquage des Gilets jaunes, il est cuit en débat, je pense. D'ailleurs, son mouvement politique galère. C'est pas parce qu'un homme politique ne vous plaît pas qu'il est cuit politiquement. Il y a des gens qui soutiennent la retraite à 67 ans. Il y a des gens qui étaient opposés au mouvement des Gilets jaunes. Il y a des gens qui votent pour le maintien de l'ordre. Il y a des... Je suis désolé, quand on analyse les mouvements politiques, on ne s'arrête pas à sa petite opinion à soi en disant « lui, je ne l'aime pas, de toute façon, il représente rien ». Non. il y a un paquet de gens que je déteste viscéralement qui représentent beaucoup de monde. Beaucoup trop, à mon avis, d'ailleurs. Mais ça, c'est que mon avis. Avec un électorat qui ne s'abstient pas beaucoup. Par ailleurs, il y a des sociologies électorales différentes, avec des électorats qui sont plus mobilisés que d'autres, des catégories d'âge, des catégories socioprofessionnelles, capital culturel, tout ça. Pourquoi on appelle ça le centre alors que toutes les réformes portées sont de droite? Tu les appelles comme tu veux. C'est toi qui décides. Tu as tes catégories, il n'y a pas de souci. J'aime pas Asselineau, mais de toute façon, il ne représente plus beaucoup de monde. Allez. C'est vrai que si on avait une offre politique qui parlait à plus de gens, on aurait peut-être moins d'abstention. Oui, ça fait partie du problème. Le phénomène de l'abstention est un phénomène complexe, qui a des sources diverses, qui a des causes diverses. C'est subtil, c'est particulier, c'est... Et la question de la qualité de l'offre politique fait partie du phénomène. C'est l'un des aspects. D'après toi, LFI est d'extrême gauche? Moi? Mais moi, tout le monde s'en branle. Mon avis à moi, c'est que la France insoumise ne correspond pas à ce qu'on appelle traditionnellement, historiquement, l'extrême gauche en France, qui est plutôt réservée au communisme révolutionnaire, au mouvement trotskiste, etc., dont LFI ne fait pas tout à fait partie. LFI, c'est encore autre chose. C'est un mouvement populiste, c'est un mouvement de gauche, on peut dire de gauche radicale si on veut, mais je ne le classifierais pas dans l'extrême gauche. Mais je suis pas majoritaire. Je veux dire, je vous rappelle que la gauche et la droite, c'est une convention, et que les conventions, ça peut changer. Donc, il est possible que LFI devienne d'extrême gauche par la force des choses, avec le temps, simplement considérant le fait que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens considèrent LFI comme étant d'extrême gauche. Ce sera toujours pas mon cas, mais... LFI n'est pas anticapitaliste, selon moi. LFI, c'est ce que devrait être le PS. Ah bah, LFI a été fondée par un ancien socialiste. Tu penses bien que LFI, c'est rien d'autre que la gauche du PS, hein ? Historiquement, fatalement, oui. Bah, c'est la blague que je vous avais faite l'année dernière, au moment de la formation du NFP. Je vous avais dit, une gauche qui va de Jean-Luc Mélenchon à François Hollande, ça s'appelle le Parti Socialiste. On a appelé ça NFP, histoire de dire. Mais la vérité, c'est que... Voilà, c'est le PS. C'est pas grave, c'est le bon vieux PS. Avec ses motions A, B, C, D et tout, machin. C'est pas des facteurs objectifs plutôt que des ressentis majoritaires qui définissent la droite et la gauche. Non, la droite et la gauche, ce sont des conventions. C'est par convention, on utilise le mot gauche pour désigner tel camp. Mais c'est des conventions qui sont aussi subjectives, qui sont soumises à des aléas, à des changements, à des évolutions. Tout le monde n'est pas toujours d'accord, tout le monde n'a pas toujours été d'accord. La gauche en URSS, c'est pas la même qu'aux États-Unis. Oui, par ailleurs, c'est très ancré dans une culture politique propre à un pays ou à une région. Évidemment, bien sûr, la gauche d'ici n'est pas la gauche de là-bas. Mais encore une fois, quand vous voyez des gens sur Internet qui pinaillent sur qui c'est qui est de gauche, de pas de gauche, de plus à gauche que toi t'es pas vraiment de gauche parce que t'es pas aussi à gauche que moi, etc. Gardez en tête qu'il n'y a rien d'original. Hein. Ça fait... Oh. Allez, ça fait 200 ans, à peu près, qu'il y a ce genre de débat et de discussion. Mais c'est normal. Alors, on n'a pas toujours utilisé les mêmes mots. On n'a pas toujours utilisé les mots gauche et droite. C'est arrivé assez tardivement, sous la Troisième République, plutôt. Mais il y avait des engueulades entre les révolutionnaires pour savoir qui l'était vraiment, qui l'était pas assez, etc. Mais c'est vieux. C'est classique comme débat politique. Ça ne veut pas dire que c'est inintéressant. Ça ne veut pas dire que ça dit rien. Mais c'est pas original. Hein. Pour ou contre l'exécution du roi. Ouais, alors il y a une légende qui circule beaucoup, comme quoi droite et gauche seraient nées au moment du vote à la Convention nationale sur le droit de veto du roi sur les lois. Alors il y a des variantes de cette légende, comme quoi les députés se seraient déplacés à gauche et à droite de l'hémicycle pour affirmer leur vote. Les variantes, c'est le procès de Marie-Antoinette, la mort du roi, etc. C'est vrai que ce vote a eu lieu et c'est vrai que les députés se sont déplacés dans l'hémicycle pour voter. Le truc, c'est que c'est pas l'acte de naissance de la gauche et de la droite. C'est une manière très mythifiée de penser que gauche et droite seraient nés un jour précis, à un lieu précis, à un moment particulier, comme ça, à un moment un peu sacré, où les députés, sur un sujet hyper important, se sont déplacés. Donc, en fait, non. Simplement parce qu'à l'époque, personne n'a utilisé les mots gauche et droite pour se qualifier politiquement. Il y avait d'autres mots à l'époque. Il y avait le Marais, il y avait la Plaine, il y avait les Montagnards, il y avait les Girondins, il y avait plein de mouvements politiques à l'époque, c'était très complexe, il y avait d'autres mots qui étaient utilisés, mais la notion de gauche et de droite a vraiment commencé à rentrer dans le langage courant du petit landerneau politique et des journalistes à partir de la Troisième République, au moment de la naissance de ce qu'on appelle le parlementarisme. C'est là que se fondent dans des partis politiques organisés, etc., des députés, qui forment des groupes cohérents et tout, qu'on commence à utiliser plus sérieusement et plus usuellement les mots gauche et droite. Mais c'est né, ça a pris du temps. Donc moi aussi, j'y ai cru pendant longtemps à ce mythe un peu magique de la naissance comme ça, de la gauche et la droite. Et d'un seul coup, et ce jour-là, naquirent la gauche et la droite. Non. Non. Si vous prenez une machine à remonter le temps et que vous retournez à la période révolutionnaire, si vous utilisez les mots gauche et droite, à peu près tout le monde va vous regarder en disant « Mais de quoi tu parles en fait ?» Il ne comprend pas. Personne n'utilise ça ici. Est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui ? J'en ai rien à foutre. C'est pas un débat qui m'intéresse. Enfin, je continue à utiliser. Encore une fois, par convention, on continue à utiliser gauche et droite parce que ce sont des repères qui nous permettent de nous comprendre quand on parle. C'est uniquement pour ça qu'on utilise ces mots-là. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est valable aussi pour la gauche et la droite non politique. Hein. La gauche et la droite, c'est... On a décidé collectivement, par convention, que cette main-là, on allait l'appeler la main droite, et cette main-là, on allait la main gauche. Et la raison pour laquelle on s'y tient, c'est parce que c'est hyper pratique pour se repérer dans l'espace. Et c'est pour ça que les êtres humains utilisent des mots pour désigner les espaces gauche et droite. Mais c'est une convention. Dans la nature, il n'y a pas objectivement, scientifiquement, un endroit qui s'appelle la droite ou un autre qui s'appelle la gauche. À la différence du nord et du sud, qui sont des repères spatialement posés sur l'axe de rotation de la planète. Bref. Mais donc gauche et droite, c'est une convention. C'est tant qu'il y aura des êtres humains qui utiliseront le langage pour se parler, ils auront besoin de mots pour se mettre d'accord, pour désigner de quoi on parle. Et gauche et droite en politique, dans un contexte de démocratie en partie parlementaire comme on a en France, continuera à être utile, je pense. Mais si on a de meilleurs mots qui naissent, eh ben on aura de meilleurs mots qui naissent, hein, c'est très bien. Et puis il y a des gens qui y sont très attachés, hein. Il n'y a qu'à regarder dans le chat les gens qui sont extrêmement attachés à une définition extrêmement précise de ce qu'est la gauche et de ce que n'est pas la gauche, etc. Moi, je respecte ça. Hein. Je n'aurais pas changé les habitudes. Apparemment, ça compte beaucoup pour certaines personnes. Très bien. Et pour beaucoup de monde, la gauche, c'est le mal à cause de Mitterrand. Oui, il n'y a pas que Mitterrand qui a fait du mal. Il y a Jospin, il y a Hollande, il y a l'URSS, il y a Cuba. Non, la gauche... Les gens qui n'aiment pas la gauche, je suis d'accord avec toi, il y en a beaucoup. Mais ils ont plein d'autres raisons que Mitterrand de ne pas l'aimer.
Ok.
Jospin Hollande, l'URSS, la Sainte Trinité. On s'en fout du mot, c'est le contenu politique qui importe. Il se trouve que le contenu politique du centre est juste de droite. On n'est pas obligé de gober les étiquettes que les gens veulent se donner. Ah mais t'es libre d'attribuer les étiquettes que tu veux à qui tu veux. Ça en dira plus long sur toi que sur eux par contre. Mais tu fais ce que tu veux. Voilà. J'ai lu que Charles de Courson ne serait pas contre le fait de devenir Premier ministre. J'ai vu passer cette info. J'ai vu passer cette info. Alors, comment vous dire ? Je sais que Charles de Courson, c'est marrant quand même, parce que Charles de Courson, il a une espèce d'aura très positive dans le chat depuis qu'il a fait la... C'était quoi ? C'était la commission d'enquête Benalla ? Non, ça, c'était au Sénat, donc c'était pas de Courson. Quand il a fait la motion de censure sur les retraites. Voilà, c'est ça. C'était la motion de censure retraite. Il y a plein de gens dans le chat qui l'ont trouvé vachement, vachement chouette, etc. Laissez-moi vous dire que si vous avez aimé Bayrou, vous allez adorer De Courson. Alors, en termes de rigueur budgétaire, on est sur du... Ouais. Ouais, vous allez kiffer. En plus, je vous connais. Ouais, non. De Villepin pareil. Ouais, De Villepin pareil. Non mais t'as raison, on en avait déjà parlé, mais je suis d'accord avec toi. De Villepin qui a une espèce de retour de hype là depuis un an ou deux, qui se fait applaudir à la fête de l'UMA, etc. Il y a plein de jeunes qui découvrent Dominique De Villepin depuis assez peu de temps en fait, qui connaissaient pas le bonhomme avant. Et du coup, il a une nouvelle virginité et il en profite. Et il a raison d'en profiter. Il aurait tort de s'en priver. Mais non, Dominique de Villepin, c'est la droite, quoi. Enfin, oui. La droite chiracienne, donc c'est pas non plus la plus. C'est pas Sarkozy, certes. Mais c'est pas non plus la gauche, quoi. Imaginez Macron quand il reviendra dans 20 ans. Ah mais moi je suis d'accord avec toi, moi je l'ai déjà dit, je le redis. Quand je vois comment des anciens hommes politiques réussissent à se faire des retours en grâce dans l'opinion publique après quelques années, je nous invite à ne pas enterrer Emmanuel Macron trop tôt. Emmanuel Macron est un président jeune. Il a été élu jeune. Il va quitter le pouvoir jeune. Relativement jeune. Il va pas disparaître. Il va peut-être même vouloir rester. Ah moi je vous ai dit, hein, Macron à la fête de l'UMA en 2040. Macron, fête de l'UMA, voilà. Interview, backseat, plateau de backseat. Interview. Il va dire qu'il est de gauche. Bah, techniquement, Emmanuel Macron n'a jamais rejeté l'étiquette de gauche. Il a toujours dit qu'il voulait dépasser la gauche et la droite. Il a fait une proposition de dépassement qui a trouvé l'oreille d'un certain nombre d'électeurs quand même en 2017, qui ont été séduits par cette proposition d'une nouvelle offre différente, moins basée sur les vieux carcans partisans, etc. Ça a eu son succès, clairement, ça a marché. Mais c'est pareil, enfin, je veux dire, est-ce qu'il va s'auto-attribuer l'étiquette de gauche alors qu'il a toujours refusé les étiquettes? Je pense pas. Je pense qu'il va continuer à dire « je suis libre, je suis en dehors des partis, je suis en dehors des étiquettes partisanes, etc. » Après, vous le croirez pas, ça c'est votre problème. On va se faire tirer Macron à la Commission européenne, 100%, c'est la prochaine étape, c'est sûr et certain. On disait déjà ça de Nicolas Sarkozy en 2012, qu'il allait devenir président du Conseil. Finalement, il n'est pas devenu président du Conseil. J'en sais rien, on verra. Je sais pas. D'ailleurs, si Macron devenait Premier ministre dans quelques années, il faudrait l'appeler Monsieur le Premier ministre. Ouais. Absolument. Eh, on aura le temps de faire des streams d'ici là. Hein. Va falloir qu'on analyse deux, trois trucs. Parce que de là à ce que Emmanuel Macron devienne Premier ministre, ça veut dire qu'il y aurait une majorité relative ou absolue de députés macronistes à l'Assemblée. On peut être giga surpris. Est-ce qu'il y a une limite de nombre de mandats de Premier ministre? Non, c'est pas un mandat Premier ministre, il n'y a pas de limite. Mais c'est une bonne question. J'en sais rien. Alors, je suis désolé, c'est un petit peu gala comme question, mais... Qu'est-ce qui va faire Macron après? Soit il écrit des bouquins. Voilà. Ça m'étonnerait qu'il retourne dans le privé. Il a déjà fait. Je pense que ça l'attire plus. En fait, ça l'attire gagner du pognon et tout. Ça... Il dit bon, il est déjà passé par là. À mon avis, il a déjà coché cette case. Ça, vraiment, c'est pas son truc. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va rester en politique? Membre du Conseil Constit? Alors, est-ce qu'il va siéger au Conseil Constit? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que Emmanuel Macron, ça l'amuse beaucoup d'aller farcir des réunions avec les neuf vieux, là, pour discuter de la jurisprudence constitutionnelle de la dernière transposition de directive de mon cul. Et on dit, il va faire comme tous les anciens présidents, il va dire bonjour au début de l'année, puis il va jamais y foutre les pieds. Maire de Paris, ouais, il pourrait. Maire de Paris. Maire de Paris, il faut aimer les gens quand même. je veux dire, c'est de la politique locale. C'est extraordinaire, maire de. J'ai travaillé à la mairie de Paris pendant plusieurs années. C'est une très très belle boutique, j'adore, etc. Mais C'est de la politique locale, quoi. Faut aimer se tarter des réunions sur des problématiques ultra-locales. Quand t'as été président de la République française, est-ce que ça te fait kiffer? Remarquez, Valéry Giscard d'Estaing, il est devenu président de région après. Hein. Région Auvergne. Je crois que c'était Région Auvergne, oui, c'est ça. Hollande député. Non mais voilà, Hollande député. Hollande, il est revenu dans le jeu politique. Hollande, il refait de la politique maintenant. Il est de retour dans le bain politique. Est-ce que Emmanuel Macron... Il y a quand même un truc à garder en tête, c'est que Hollande a été député pendant des décennies. Je veux dire, Hollande, c'est l'un des êtres humains qui connaît le mieux les couloirs de l'Assemblée nationale. C'est une maison qu'il connaît par cœur. Il a poncé l'Assemblée nationale, François Hollande. Donc, moi, revoir Hollande redevenir député, d'un certain point de vue, ça ne m'étonne pas. Il connaît la maison, il sait que c'est là que ça se fait et tout, donc il y retourne. Emmanuel Macron n'a jamais été député. Il n'a jamais été élu local. Est-ce que vous croyez que Emmanuel Macron aurait envie, pareil, d'aller se farcir des dossiers en commission, déposer des amendements, les défendre ? Je suis pas sûr. Vraiment, je suis pas sûr. Conseiller de toutes les plus grosses boîtes. Tu déconnes ou quoi ? Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron, il en a à foutre de conseiller des entreprises ? Il a été président de la République. Tu veux qu'il fasse du conseil ? Qu'il aille dire à des boîtes qu'il faudrait qu'elles fassent comme stratégie, etc. Le salaire, pour moi, c'est... J'en sais rien, mais en vrai, c'est une discussion un peu débile qu'on est en train d'avoir parce qu'on connaît pas le mec. mais je crois pas qu'Emmanuel Macron soit attiré par le pognon. Il a déjà eu du pognon dans une autre partie de sa vie. Il a été banquier d'affaires, il a fait du fric. Il en a eu, il connaît. Il a pas de problème de fric, Macron. Il en aura jamais dans sa vie, tout va bien. À mon avis, il est à l'abri du besoin, à l'abri du danger. Donc il est pas du tout dans une logique de recherche d'enrichissement. Il a quitté l'entreprise pour faire de la politique. Il est devenu président de la République. Streamer politique. Ça, c'est une idée. Macron se lance sur Twitch. Macron lance sa chaîne. Ça, ce sera intéressant. Putain, j'aurais des questions dans le chat. Oh là là. Oh là, j'en ai trop. Il y a bien eu Méluche, c'est pareil. Méluche a jamais été streamer. Enfin, c'est une personnalité sur Twitch à l'occasion de talk shows qui ont été créés par ses équipes. C'est pas tout à fait streamer solo, quoi. C'est pas pareil, mais c'est proche, tu me diras. C'est possible, de toutes les façons, c'est l'un des plus proches. Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il se voit bien prendre le poste d'Ursula von der Leyen. Ouais, il y en a plusieurs dans le chat, hein, qui disaient ça. Président de la Commission européenne, Emmanuel Macron, oui. Oui, ça pourrait l'intéresser potentiellement. Là, il continuera à faire de la politique, c'est sûr. Hein. Macron a un avantage, à la différence de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il a fait le traité de Lisbonne, comme vous le savez. Dans le traité de Lisbonne, ils ont créé un poste qui n'existait pas, qui est le président du Conseil. Le Conseil européen, la réunion des chefs d'État, il y a un président du Conseil. Avant, c'était une présidence tournante et tout. Ils ont changé, ils ont nommé un mec. Toi, tu seras le président du Conseil, etc. À l'époque, je me souviens, j'étais là. La légende disait que Nicolas Sarkozy avait rajouté dans le traité de Lisbonne ce poste parce qu'il avait une petite idée derrière la tête. Sous-entendu, devenir lui-même président du Conseil européen après la fin de son mandat politique en France. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'en sais rien. Toujours est-il que Nicolas Sarkozy, il lui est arrivé un pépin, je vous rappelle, c'est qu'il a perdu une élection présidentielle. Il s'est présenté à sa propre succession et il a perdu face à François Hollande. Sauf que du coup, c'était compliqué pour les Européens de nommer Nicolas Sarkozy président du Conseil, puisque ça aurait été aller contre l'avis du nouveau président français, qui était l'adversaire de Nicolas Sarkozy. Donc, ah non, tu peux pas. Vous imaginez la réunion, Angela Merkel qui suggère à François Hollande le nom de Nicolas Sarkozy pour présider le Conseil. Donc non. Donc ça lui est passé sous le nez. Pour ce qui est d'Emmanuel Macron, c'est pas pareil. Emmanuel Macron, je vous rappelle qu'il va quitter le pouvoir sans être défait électoralement. Emmanuel Macron n'a jamais perdu d'élection en France. Les deux seules élections auxquelles il s'est présenté, il les a gagnées. Donc, peut-être que les autres chefs d'État européens se diront, dis donc, Emmanuel Macron, il est pas mal, peut-être que ça pourrait être bien. 100% de win rate, exactement, 100% de win rate. Nommément, oui, par contre, son parti s'est pris des tôles. Oui, mais ça, on s'en branle. Justement, c'est un argument de plus. Dès lors qu'Emmanuel Macron se présente en son nom, il gagne l'élection. Dès lors que c'est pas en son nom, ils se prennent des tôles. Ils ont l'accent Valéry Giscard d'Estaing, les autres en Europe. Oui. C'est bizarre, je sais, mais moi aussi, ça me perturbe. Je le vois vraiment plus au FMI ou chez BlackRock ou Goldman. C'est quoi le rapport entre le FMI et BlackRock et Goldman? Ça n'a rien à voir. Et pour ce qui est de BlackRock ou Goldman Sachs, encore une fois, Macron, il a déjà fait ça. Je suis pas sûr qu'il ait très envie d'y retourner. Hein. Et s'il prenait au sérieux le rôle de juge constitutionnel? Alors, il y a quand même une difficulté, je vous rappelle, c'est qu'Emmanuel Macron a proposé de supprimer les anciens présidents de la République du Conseil constitutionnel dans la réforme de 2018 de la Constitution. Ce serait compliqué pour Macron, après ça, de devenir un habitué de la rue de Montpensier. Donc à mon avis, non, si Emmanuel Macron veut être cohérent avec ce qu'il a proposé, il faut pas qu'il siège au Conseil constitutionnel. J'arrive pas une seconde à imaginer Emmanuel Macron juge constitutionnel. J'essaye de prendre compte quand même du boulot que c'est, de la merde que c'est aussi. Enfin, je veux dire, c'est quand même se coltiner des dossiers de jugement de QPC. C'est ultra technique. Hein. Le juge constitutionnel, tu t'arraches les cheveux pour juger de la constitutionnalité de la transposition d'une directive avec des délais qui ne correspondent pas à ce qu'on a signé dans le cadre de machin. Enfin, je sais, j'ai fait ça à une époque. J'en garde un souvenir ému. Non, le droit constitutionnel, c'est un droit, chiant. Il faut le dire, hein, c'est chiant, c'est sans merde. J'ai un gars qui me dit qu'il y a une faille dans la Constitution qui permettrait à Macron de faire un article 16 s'il le fait juste après une dissolution. Que lui répondre? Bah, il a de l'imagination, ton pote. Qu'est-ce que tu t'en branles de quand est-ce que tu le fais, ton article 16? Vu que c'est un article d'urgence, tu le fais dans l'urgence, quelle que soit l'urgence. C'est quoi le rapport avec la dissolution ? J'essaie de chercher le rapport entre l'organisation d'un scrutin et les conditions de déclenchement de l'article 16. Vraiment, non. Non, vraiment, je te jure, on s'en branle. Enfin, vraiment, l'organisation d'un scrutin n'a rien à voir avec... Peut-on relire l'article 16 ? On reprend la Constitution. Article 16. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents, des assemblées et du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées, Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans un délai les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de 60 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. L'article 16, c'est un article qui peut être utilisé dès lors que les pouvoirs publics constitutionnels sont interrompus. Il faut imaginer dans votre tête une situation dans laquelle il y a des missiles, il y a des bombes, il y a un drame absolu, machin, qui empêche physiquement l'Assemblée nationale, le Sénat, le président de la République, le gouvernement, le Conseil constitue, le Conseil d'État, etc., de fonctionner normalement. L'article 16, ce n'est pas un article de solution de conflit politique. C'est pas un article qui permet de gouverner le pays. D'ailleurs, c'est très précisément expliqué par l'article 16. Les mesures que prend le président de la République doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Donc les décisions que prend le président de la République dans le cadre d'un article 16 doivent être des décisions qui visent à rétablir les pouvoirs publics constitutionnels dans leur fonctionnement habituel. Et que ça. Ça ne sert pas à adopter un budget, par exemple. Ça ne sert pas à faire passer une loi sur, un sujet, peu importe lequel. Non. Ça sert en urgence à permettre à la Constitution de fonctionner normalement, habituellement, etc. D'ailleurs, à propos des pouvoirs publics constitutionnels, des institutions de la République, etc., je vous rappelle que la crise politique dans laquelle nous sommes actuellement n'est pas un dysfonctionnement des institutions. Les institutions fonctionnent très bien. L'Assemblée nationale fonctionne. Les députés se réunissent, ils votent, tout marche très bien. Quand le Premier ministre est censuré par une motion de censure, c'est pas un dysfonctionnement. C'est un fonctionnement normal. C'est prévu par la Constitution, la motion de censure. Hein, c'est écrit, on peut la voter, on a le droit, ça fait partie du truc, etc. Il ne vote pas grand-chose, en l'occurrence le budget. Bah attends, le vote n'a pas encore eu lieu. Attention, j'ai pas dit que c'était souhaitable, hein. Vous avez bien compris la différence. Qu'il y a une différence entre ce qui est légal, disons, ce qui est conforme au droit, au fonctionnement normal. Quand je dis qu'une institution fonctionne bien, je dis pas que ce qu'elle produit me convient. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est mon opinion politique sur le sujet. Mais c'est pas un dysfonctionnement de l'institution. Il n'est écrit nulle part dans la Constitution que les décisions prises par l'Assemblée nationale ou le Sénat doivent me convenir. Non. c'est écrit nulle part, ça. Ça, c'est mon problème. Si ça me va pas. Si aucun budget n'est voté pour 2026, est-ce que ce sera un dysfonctionnement? Non. Non, c'est pas un dysfonctionnement. Si un budget n'est pas voté, c'est pas un dysfonctionnement. La Constitution prévoit des mécanismes en cas de budget non voté. Et la LOLF en 2001 aussi prévoit des mécanismes. Donc non. C'est prévu. Après, attention, et je redis encore une fois que ça veut pas dire que ce sera une bonne chose, ça veut pas dire que ce sera une bonne nouvelle, ça veut pas dire que ça n'aura pas de conséquences. Mais d'un simple point de vue légal du fonctionnement du truc, c'est pas un dysfonctionnement des institutions. Tu peux rappeler pourquoi les députés ont légalement le droit de mentir? Mais parce que ça n'a jamais été un délit de mentir. Sauf parjure, dès lors qu'on a prêté serment, mais ça c'est autre chose. Et puis surtout, mensonge. Je veux dire, tout l'intérêt d'un parlement, c'est justement de discuter de ça. De ce qui relève du mensonge pour les uns et pas pour les autres. C'est le principe d'un débat parlementaire, et heureusement, vous imaginez s'ils se faisaient des procès, les députés? T'as un député qui dit « Ouais, la gauche, c'est mieux. Procès, procès. » Alors là, procès. C'est faux, vous avez pas le droit de dire ça. C'est intolérable. Je viens d'entendre un mensonge. C'est un mensonge total. Non, procès. Allez, hop, ça part. Non, mais vous imaginez. Chacune des phrases qui est prononcée par un député peut être accusée. Fake news, ouais, c'est ça. Fake news, mensonge. Vous mentez. C'est le cas en Corée du Nord, je crois. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de débats parlementaires en Corée du Nord. C'est pas trop le genre de la baraque. Non. Non, ils font pas ça. Le débat parlementaire en Corée du Nord, c'est applaudir pour ne pas mourir. C'est ça, tu applaudis bien fort, le camarade. T'as déjà vu des vidéos de vote en Corée du Nord? Oui, j'ai déjà vu, on en a regardé une la dernière fois en stream. Vidéo de vote en Corée du Nord. Je vais vous la remettre. La source est toujours aussi approximative. Attention, la musique va être horrible. Ah, c'est... J'adore. Si vous voulez que je le dise. Ça, c'est un parlement, ça. Ça, c'est carré, ça. Ah bon, on se fait pas chier. Il y a moins de débats, il y a moins de discussions, il y a moins de débats. Non, et puis le camarade premier secrétaire du parti ne peut dire que la vérité. Alors là-bas, il n'y a pas de problème de parjure. De que tout ce qui sort de sa bouche, il y a un principe d'infaillibilité qui fait que tout ce qui sort de sa bouche est vrai. Alors là, non, c'est facile. Ils n'ont pas de 49-3 là-bas. Ah non, ils n'ont pas de 49. Non, je te dis, ils ont des problèmes que nous, on n'a pas. Hein. Ou plutôt, on a des problèmes qu'eux n'ont pas. Leur constitution est plus courte. Détrompe-toi, parce que la constitution de la Corée du Nord, c'est assez long. Constitution de la Corée du Nord. Je check. Ils ont... Ouais, c'est un peu plus long que la nôtre. Hein. Ils ont 140, 150, 160... 172 articles. Après, c'est pas le nombre d'articles qui fait la quantité ni la qualité, évidemment. La constitution coréenne, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Constitution du 5 septembre 1998. La République populaire démocratique de Corée est la patrie socialiste du Juche, incarnant les idées et les directives du président Kim Il-sung, grand leader. Attends, déjà rien. La République, c'est la patrie qui incarne les idées et les directives du président. Putain. Il y a tout mon côté rousseauiste qui est en train de mourir. Le président Kim Il-sung, grand leader, est le fondateur de la République populaire démocratique de Corée et des Corées socialistes. Et de la Corée socialiste. D'accord. Le président Kim Il-sung a créé les idées immortelles du Juche et entrepris sous leur drapeau la lutte révolutionnaire anti-japonaise, instaurant ainsi de glorieuses traditions révolutionnaires et faisant triompher la cause historique de la libération du pays. Il a posé de solides assises à l'édification d'un État indépendant dans des domaines politiques, économiques, culturels et militaires avant de fonder la République populaire démocratique de... Non mais c'est un trac là. C'est chiant. Le président Kim Il-sung avait le génie de la pensée, de la théorie ainsi que l'art de la direction, un invincible commandement de volonté de faire. Putain, mais c'est incroyable, c'est une hagiographie. Article 1er, la République populaire démocratique est un état socialiste souverain qui représente les intérêts de tout le peuple coréen. Ta révolutionnaire qui perpétue les brillantes traditions établies au cours de la glorieuse lutte. C'est chiant comme logoré. C'est. Ça me gonfle. Donc les brillantes traditions et les glorieuses luttes révolutionnaires contre les agresseurs impérialistes pour la libération de la patrie, pour la liberté et du bonheur du peuple. Non mais il est où le droit là? Il est où le droit? Économie, production socialiste. D'accord, putain la vache, c'est chiant. La propriété de l'État est celle du peuple entier. Ouais, mon cul, ouais. L'étendue du droit de propriété de l'État n'est pas limitée. C'est flippant un peu comme phrase, ça. Enfin, tu me diras, le reste aussi est flippant depuis le début, mais l'étendue du droit de propriété de l'État n'est pas limitée. C'est-à-dire qu'il y a une propriété sur les corps humains, une propriété sur les idées, sur les pensées. Ouais. Les richesses naturelles du pays, la propriété et l'organisation sociale coopérative, la terre. La propriété individuelle est destinée à la satisfaction des besoins personnels des citoyens et à leur consommation personnelle. Oui. La propriété individuelle résulte de la répartition socialiste en fonction du travail fourni, ainsi que les avantages supplémentaires accordés par l'État et la société. C'est l'État qui te dit ce que tu possèdes. Bonheur. Les produits de l'exploitation individuelle d'appoint, à commencer par l'exploitation des lopins de terre, ainsi que les revenus issus des activités d'exploitation légitimes, font également partie de la propriété individuelle. Alors ça, c'est important sur les lopins de terre, parce que vous savez que dans les années 90, la Corée a connu une période de famine absolument terrible. Donc ils ont rajouté dans la constitution que les gens avaient le droit de posséder un lopin de terre. Mais juste un lopin, hein, par contre. Hein. On ne veut pas d'agriculteurs, non. Non. L'État protège la propriété individuelle et assure juridiquement le droit de succession. D'accord. Non, mais il y a du droit quand même. Culture. La culture socialiste qui s'épanouit et se développe en République populaire de Corée contribue à élever la créativité des travailleurs et à combler les nobles besoins culturels et émotionnels. Non, il n'y a pas à en dire. Ça fait envie. Ça donne envie de se projeter dans un tel soutien à la culture. Non, c'est beau. L'État abolit le mode de vie hérité de l'ancienne société et établit un nouveau socialiste dans tous les domaines. Comment ça, on abolit un mode de vie dans la Constitution ? C'est quoi un mode de vie ? Mode de vie, hein, c'est de l'ancienne société. Mais comment tu abolis une... C'est flippant. C'est flippant. L'État transforme, en appliquant le principe fondamental de pédagogie socialiste, les membres des générations montantes en révolutionnaires... ça va m'énerver, ça. L'État transforme, en appliquant le principe fondamental de pédagogie socialiste, les membres de la génération montante en révolutionnaires résolus, prêts à lutter pour la société et le peuple, en hommes nouveaux du type Juche, développés sur des plans intellectuels, moral et physique. Alors les jeunes, il n'y a pas de Naruto, de One Piece, etc. Hein. L'État a décidé que tu allais être l'avant-garde révolutionnaire, d'accord ? C'est vraiment le SNU, quoi. c'est leur SNU. Ouais, c'est ça. Bon, on va pas se faire toute la Constitution. Je vous ai dit, il y a 170 articles. c'est flippant. C'est totalitaire de ouf. Vraiment, l'État possède ton corps, quoi. L'État possède vos culs. Voilà, article 12. Tu m'étonnes qu'à droite, ils considèrent que la gauche, c'est une abomination quand ils ont ça en tête. Ah bah, quand tu viens de la tradition anticommuniste, effectivement, t'as un rapport à la gauche qui est pas... C'est ce que m'avait dit... Merde, comment il s'appelle le sénateur qui cartonne sur Facebook, ses vidéos cartonnent. Il a été, il a fait partie des French Doctors dans les années 70-80. Il a créé Doctissimo. Maluret, Claude Maluret. Merci. Bravo, Potron Minet, bravo. Claude Maluret, un authentique anticommuniste, qui m'avait dit, moi, quand je vois des jeunes avec des t-shirts Che Guevara, ça me fait pas marrer. Parce que pour lui, Che Guevara, Staline, Pol Pot et les Khmer Rouges, etc., c'est pareil. Tous les mêmes Tous dans le même bain. Ouais, tous dans le même bain. Il a fait des choses graves, Che Guevara. J'y connais vraiment rien. Ça dépend ce que tu appelles grave. Et il a fait la guerre, Che Guevara. Il a fait la guerre. Il a même fait la guérilla. Et dans le cadre de la guerre, il a commis des exactions, des crimes de guerre. Il a fait des pelotons d'exécution, il a abattu des gens, il a... Enfin, voilà. Premièrement. Et deuxièmement, il a participé à créer l'État communiste de Cuba. Et là, c'est une question de point de vue. Il y en a qui vont trouver ça formidable, il y en a qui vont trouver ça déplorable. C'est pas des exactions en Corée du Nord. Ah, si c'est ça ton, si c'est ça ton étalon de mesure, effectivement, non, il y a pas grand-chose qui est grave, du coup. Mais... Le Cuba Libre. Ça, j'ai appris ça tardivement. Vous connaissez le cocktail, le Cuba Libre? Vous avez déjà bu un Cuba Libre? Cuba Libre, c'est un cocktail où tu mets du rhum et du Coca-Cola. Et du coup, ça veut dire Cuba Libre. Tu donnes la liberté à Cuba. J'avais pas compris ça au début. J'avais pas percuté le. Parce que pour moi, Cuba, c'est. J'avais compris le Cuba, le rhum, mais j'avais pas fait le lien avec politiquement le. Ok. Tu apportes la liberté américaine à Cuba. Tu mets du coca dans ton rhum. Ouais, bref. C'est quoi le lien entre Rome et Cuba? Entre le Rome et Cuba? quand même. Non, mais quand même. Le Rome, les cigares. Il y a des incontournables. C'est quoi le lien entre Libre et les US? J'ai eu la chance de voyager à Cuba il y a quelques années maintenant. Et c'est extraordinaire. J'en garde un super bon souvenir. C'est un pays incroyable. C'est pas hyper touristique. Alors, c'est marrant parce que si Cuba est très touristique, mais l'écrasante majorité des touristes à Cuba, ce sont des Américains et des Canadiens qui visitent pas Cuba. En fait, ils en ont rien à branler de Cuba. Ils vont dans des resorts sur la côte. T'as des tonnes d'Américains. Enfin ouais, d'Américains, Canadiens qui sont pas là pour visiter, qui en ont rien à foutre de la culture locale et qui sont juste là pour aller se dorer la pilule à la plage. Et moi, du coup, avec ma famille, on visitait plein de trucs. Hein. Moi, je visitais tout et tout, tous les musées, on faisait tous les trucs, les exploitations de tabac et tout, on a les manufactures et tout, on a visité plein de trucs. Et les guides, je me souviens, on avait un de nos guides qui nous avait dit « Mais vous êtes trop sympa, vous posez plein de questions. » Et nous, on disait « Bah, c'est normal, évidemment, on a plein de questions. Et pourquoi les autres, c'est pas comme ça ?» Ils disent « Non, les autres, on en a rien à foutre. » Il y a plein de touristes qui en ont rien à foutre. Tu leur fais des visites, tu leur expliques des trucs, mais en fait, ils s'en branlent. Et nous, on disait, nous, on s'en branle pas du tout. On est venu pour ça, ça nous a coûté un bras. T'inquiète que. Ah non, moi, j'avais plein de questions à poser, c'est trop intéressant. Je me souviens, ils vendaient la constitution cubaine dans un bistrot. Ils vendaient la constitution cubaine traduite en plein de langues dans un bureau de tabac. Du coup, je l'avais acheté. Aéroport, resort, c'est les vacances standardisées. Ouais, je sais. Non, mais c'est pas mon genre. En même temps, je suis allé très très peu dans des resorts dans ma vie, donc J'ai pas pris le pli. Mais ouais, non, c'est un très très beau pays, Cuba, un pays très complexe avec des dynamiques profondes. Tu sens que le modèle socialiste de Fidel Castro, c'est daté sa mère. Ça commence à tirer en longueur là pour la population, hein, pour les gens. Tu vois que les jeunes cubains ne rêvent pas vraiment de Che Guevara et de Fidel Castro. C'est pas trop leur idéal de vie. Plutôt le regard tourné vers les États-Unis. Avec l'arrivée d'Internet en plus, je me souviens, Internet était là arrivait de plus en plus à Cuba. Ils avaient des hotspots Wi-Fi sur les haciendas dans les centres-villes. Et du coup, je me souviens, des armées de jeunes qui se réunissaient avec leur téléphone, avec leur smartphone, dans le centre-ville. Et chacun était sur son téléphone. En fait, ils étaient sur Facebook. Ils étaient sur les réseaux sociaux, ils étaient sur YouTube et tout. C'est qui est actuellement au pouvoir à Cuba? C'est Raúl Castro, le frère de Fidel Castro. Si je dis pas de bêtises, c'est toujours lui. Ah, oh, ça a peut-être changé. C'est Diaz-Canel. Miguel Diaz-Canel. Carrez. Diaz-Canel. D'après Internet. Ok, merci. Je connais pas. Ok, bah c'est un nouveau. Non, tu sens qu'il y a à Cuba une ambiance qui est proche de l'ambiance qu'il y avait en RDA avant la chute du mur de Berlin, quoi. Les gens en ont ras-le-bol. Ras-le-bol de la corruption, ras-le-bol de l'immobilisme, ras-le-bol de... Quand tu lis, on croirait que le stream freeze, tu bouges pas d'un poil. Mais non, c'est parce que je lis votre prose. Excusez-moi, je lis votre prose, elle est très intéressante. J'imagine que la jeunesse n'est pas non plus naïve envers l'oncle Sam. Non, mais la jeunesse, elle choisit son malheur, si tu veux. À choisir entre les deux, ils choisissent mille fois les États-Unis plutôt que Cuba. Hein. Le choc culturel m'a trop perturbé. L'absence quasi totale de magasins, le rationnement d'essence et de PQ. Je sais toujours pas comment ils font pour avoir des vêtements à part le marché noir du Panama. T'as parfaitement raison. Moi, je me souviens aussi l'absence de magasins. T'as raison, hein, le pétrole rationné et tout. C'est un choc brutal. Tout fonctionne au marché noir. Ce qui tient l'île de Cuba, c'est le marché noir. Et ce qui tient la junte militaire au pouvoir, c'est le trafic de drogue. Non, c'est pas marrant. Hein. C'est pas très marrant pour les populations locales. Pour nous, Européens privilégiés, c'est facile d'y aller et de se sentir un peu dépaysé, mais il y a un côté exotique. Mais Cuba, pas de SDF, enseignement et soins 100% gratuits. Si les Cubains envient les US, c'est parce qu'ils ne savent pas que tout est payant et donc inaccessible. Bah, va leur dire. Va leur faire le catéchisme. Apparemment, ça leur a échappé, effectivement. Effectivement. Petit résumé du titre du stream. Si ça fait longtemps que tu l'as pas fait, je viens d'arriver. Ouais, non. excusez-nous, on est parti loin, on est parti en Corée du Nord, on est parti à Cuba, c'était un grand moment. Non, le titre du stream, c'est sur est-ce que le Parti Socialiste aurait les moyens de gouverner si d'aventure, la semaine prochaine, ils étaient amenés et appelés à former un gouvernement par Emmanuel Macron. Et la conclusion qu'on en tirait, c'est que ça allait être l'enfer pour le PS, quoi. Alors, je dis, c'est la question de savoir si c'est opportun de le faire revient au PS, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Mais entre d'un côté la France Insoumise qui va instruire un procès en trahison en permanence, et de l'autre côté les macronistes qui vont tout faire pour empêcher le PS de solder le bilan du macronisme. Et en plus, le PS qui a l'air de dire qu'ils n'ont pas l'intention d'utiliser le 49-3 pour faire adopter des propositions, des projets de loi, ce qui veut dire que toutes les lois vont faire l'objet d'une négociation affreuse à l'Assemblée. Mais il ne faut pas croire que... Faut pas faire l'erreur de croire que les macronistes vont poliment soutenir un gouvernement de gauche. Sous-entendu, qui vont laisser un gouvernement de gauche, compte tenu du poids qu'ils ont à l'Assemblée, ils vont pas laisser la gauche détricoter les 8 ans d'héritage qu'ils ont patiemment construit. Donc ça va être psychodramatique, quoi. Loi après loi, toutes les tentatives du PS, si d'aventure le PS était amené à gouverner, toutes les tentatives du PS de faire des trucs de gauche vont se faire éclatax par les macronistes. Et le risque pour le PS, mais après c'est la difficulté de l'exercice du pouvoir, hein, toujours, c'est l'impopularité à un an des municipales. Et à moins d'un an des municipales, et à 2 ans de la présidentielle, quoi. Au final, le PS finit de se ridiculiser et LFI en sortira renforcé. On verra, ça dépendra des dynamiques électorales qu'on aura en 2027. Vous savez, l'élection présidentielle, paradoxalement, c'est pas paradoxalement d'ailleurs, elle est aussi très tournée autour de la personne qui incarne la candidature. Il y a des personnes qui portent, c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, puis il y a des personnes qui portent pas, c'est le cas d'Anne Hidalgo. Mais ça peut s'inverser aussi. Sarkozy a dit que selon lui, si le gouvernement tombe, la seule option, c'est la dissolution. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que c'est une solution crédible, sérieuse, la dissolution. J'en sais rien. Parce que le problème, en fait, c'est pas compliqué, c'est que j'ai beau retourner le problème dans ma tête, le problème, c'est que c'est Emmanuel Macron qui décide. Et c'est pas la personne d'Emmanuel Macron qui me pose problème, en l'occurrence. C'est que c'est le président de la République qui prend la décision de dissoudre, s'il estime que c'est opportun. Là où je trouve que Nicolas Sarkozy marque un point, c'est quand il dit que ce serait quand même gonflé de la part de Macron, qui a dissous l'année dernière alors que rien ne l'y obligeait, de ne pas dissoudre aujourd'hui alors que tout l'y oblige. Là, je suis d'accord. Une dissolution aussi rapide, ça risque de créer la même assemblée et de se retrouver avec les mêmes problèmes juste plus tard. Oui, mais ce que tu dis est valable pour toutes les élections législatives anticipées dans tous les pays qui en pratiquent. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas au Royaume-Uni, c'est le cas en Italie. Les choses sont pas condamnées à être les mêmes. En quoi tout l'y oblige cette fois ? L'Assemblée nationale est divisée, l'Assemblée nationale n'arrive pas à gouverner. Je veux dire, l'Assemblée nationale d'avant 2024, d'avant la dissolution, c'était pas une Assemblée nationale impossible. La preuve, il y a eu le gouvernement d'Elisabeth Borne et celui de Gabriel Attal. Alors, ce n'étaient pas des gouvernements confortables, mais c'était des gouvernements qui avaient quand même les moyens de leur politique. Pas tout à fait. Ils avaient besoin de se mettre d'accord avec les Républicains qui leur apportaient un... qui rechignaient à leur apporter un soutien, etc. Bon. 2024, Emmanuel Macron dissout en disant « je veux une clarification ». Sous-entendu, je veux qu'il y ait une majorité absolue. Je veux qu'il y ait quelqu'un qui ait le pouvoir, quoi. Et le résultat qu'on a, c'est une assemblée divisée en trois blocs et aucun des blocs n'a les moyens de mener une politique. Donc, je trouve que depuis 2024, une dissolution s'impose beaucoup plus que depuis 2022. Cette assemblée est ingouvernable. Enfin, est-ce qu'elle est vraiment ingouvernable ? J'en sais rien, moi. Comment il s'appelle ? Michel Barnier n'a pas réussi. Bayrou n'a pas réussi. La différence entre Michel Barnier et Bayrou, c'est que Michel Barnier s'est fait imposer son départ alors que François Bayrou a choisi de partir. La prochaine sera tout autant ingouvernable, le pays est divisé en trois pôles imperméables. Le pays peut-être, mais est-ce que les résultats des élections le seront tout autant ? J'en sais rien, on verra. Si la gauche est divisée et qu'il n'y a pas de Front Républicain, ah, c'est sûr, on se rapproche d'une majorité absolue RN. L'équation est bien simple, soit deux blocs sur trois arrivent à s'entendre, pas à censurer le gouvernement, soit tu as besoin de dissolution. Et vu que le RN ne veut pas travailler avec le bloc central et réciproquement, alors que la gauche et le centre s'entendent, au moins un peu, et ben c'est probablement ce que va essayer de faire le Parti Socialiste. En disant qu'effectivement, il faut qu'il y ait une partie de la gauche qui accepte de partager le pouvoir avec les macronistes. Et c'est la seule solution pour qu'il y ait quelque chose de gouvernable dans cette assemblée. La question de savoir si c'est populaire, ça, on verra ça dans le résultat des urnes. Pourquoi les sondages de 2027 sont faits avec Le Pen alors qu'elle est inéligible ? Parce qu'elle a fait appel. Et que son appel interviendra, son procès en appel interviendra avant l'élection présidentielle. La dissolution, elle servira plus à clarifier la situation qu'elle a changée. Ben, ce serait déjà un beau changement d'avoir une situation claire. Je veux dire, ça nous aiderait. Si des socialistes entrent au gouvernement, ils seront certainement hors des ministères régaliens de toute façon. Là, le plan pour l'instant, en tout cas, c'est ce qui est réclamé par les socialistes, c'est d'avoir une cohabitation, c'est d'avoir un gouvernement socialiste avec les communistes et les écologistes. Et d'avoir aucun macroniste dans le gouvernement. Pas de France Insoumise ? Non, pas de France Insoumise. Les socialistes ont dit qu'ils n'en voulaient pas, et les insoumis ont dit qu'ils ne voulaient pas non plus. Pour le coup, ils sont d'accord. Hey, on va quand même célébrer le fait qu'il y a au moins... une union de la gauche sur un sujet, c'est que la gauche ne veut pas gouverner avec la gauche. Enfin, en tout cas, les deux gauches n'ont pas envie. C'est bien, on progresse. en dépit du vote des électeurs. En dépit du vote des électeurs et en dépit de la pression mise par les électeurs de gauche et les sympathisants de gauche qui sont plutôt en faveur de l'Union. Mais ça marche plus. Le PS, personne n'en veut. Ça dépend quel résultat d'élection tu regardes. Mais vaut mieux regarder les résultats qui vont dans ton sens, c'est mieux. C'est quoi le budget PS d'alternative dont tout le monde parle ? 26 milliards d'euros d'économies basées en grande partie sur des réductions d'aide aux grandes entreprises. Réforme fiscale de l'impôt sur le revenu, je crois. Abrogation de la réforme des retraites. Je ne me souviens plus du reste. Taxe Zuckman, oui, t'as raison, j'étais en train de chercher dans ma tête, c'est la taxe Zuckman. C'est pas la première fois qu'une formation politique va à l'encontre de la volonté de ses électeurs proches ou lointains. Tu parles de quoi ? Laquelle ? On oublie presque les municipales. Les municipales, c'est secondaire. Les municipales, c'est secondaire. Ça, franchement, c'est pas l'enjeu du destin du pays, de l'adoption d'un budget. Avant Noël, non, on verra plus tard ça. Pour le PS, c'est hyper important les municipales quand même. Mais oui, mais l'enjeu des municipales ne se règle pas à Matignon. L'enjeu des municipales, c'est les exécutifs locaux sortants qui vont trouver des accords ou pas. Enfin, je veux dire, ça se règle au niveau local. C'est pas. Je veux dire, j'ai du mal à imaginer que le PS, que n'importe quel parti politique refuserait d'exercer le pouvoir sous prétexte que ça risque de l'emmerder dans des élections locales. Alors, pardon, mais. Un petit gouvernement technique jusqu'à 2027, force à nous. Gouvernement technique pendant un an et demi, deux ans? Ouais, c'est compliqué. J'ai entendu dire que Marine Le Pen va se présenter aux législatives en cas de dissolution de l'Assemblée pour forcer le Conseil d'État à refuser sa candidature. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai, c'est plus subtil que ça. Marine Le Pen a été condamnée en première instance à une peine d'inéligibilité assortie d'une exécution provisoire. Donc son éligibilité s'applique avant un hypothétique procès en appel. Marine Le Pen a l'intention, s'il y a une dissolution, de déposer sa candidature pour que sa candidature soit rejetée par la préfecture. Logique, le préfet ne fait qu'appliquer la loi. Désolé, madame, vous êtes inéligible, je rejette votre demande, votre candidature. Ce qui permettra à Marine Le Pen d'attaquer devant le tribunal administratif la décision du préfet de rejeter sa candidature. Et dans le cadre du procès devant le tribunal administratif, Marine Le Pen va faire ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité, qui fait qu'en gros, on fait pause sur le procès, on en réfère au Conseil constitutionnel et on lui pose une question sur la constitutionnalité d'une loi. Et la question que Marine Le Pen veut poser au Conseil constitutionnel, c'est est-ce que l'exécution provisoire sur une peine d'inéligibilité est constitutionnelle ? Selon elle, ça viole la Constitution. Et on verra ce que répond le Conseil constitutionnel. C'est pas bête hein, ce qu'elle fait, Marine Le Pen. C'est pas con. Hein. Dans sa situation, elle regarde les options juridiques qu'elle a, judiciaires. Enfin, voilà, avec ses avocats, ils ont regardé et tout. Ils ont dit, mais en fait, il faut qu'on fasse tous les recours qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh ben, on peut attaquer une interdiction de se présenter pour faire une QPC. Ça violerait quel article de la Constitution ? C'est une bonne question. Ça violerait des principes constitutionnels sur la liberté des citoyens de se présenter aux élections. Disons que le fonctionnement démocratique habituel de la France est garanti par la Constitution. Et que dans le cadre de cette garantie, Marine Le Pen va poser la question de « mais dis donc, si on se met à faire des exécutions provisoires sur les peines d'inéligibilité, etc., on retire à des citoyens la possibilité de se présenter alors qu'ils n'ont pas épuisé toute leur voie de recours. » C'est ça l'argument central. C'est « attendez, je ne suis pas allé à la fin de mon marathon judiciaire. C'est dégueulasse de m'empêcher de me présenter maintenant alors que je n'ai pas épuisé les voies de recours. J'ai le droit, comme tous les justiciables, de faire appel, etc. Machin. » Donc elle veut obtenir l'inconstitutionnalité de l'exécution provisoire sur les peines d'inéligibilité. Voilà. Et peut-être... Alors franchement, là, j'en sais rien. Je suis pas... Je ne suis plus juriste en droit public et en droit constitutionnel, donc je ne sais pas si le Conseil d'État, si le Conseil constitutionnel ne va pas estimer que... Peut-être que le Conseil d'État va estimer que son... Peut-être que le Conseil d'État va estimer que sa QPC ne remplit pas les critères de la QPC. Ça, c'est possible. Donc déjà, peut-être qu'elle va se faire envoyer chier dès le début. Et si ça va jusqu'à la QPC, peut-être que le Conseil constitutionnel va juger que la constitutionnalité de la loi en question a d'ores et déjà été tranchée par le passé dans une jurisprudence du Conseil constitutionnel et qu'il n'y a pas besoin de revenir dessus. Donc, vous voyez, il peut se passer plein de trucs, là, j'en sais rien. Je parle dans le vent parce que je n'ai pas le dossier sous les yeux et je ne sais pas ce qui a été jugé par le passé. Est-ce que tu arrives à analyser la situation politique en France sans être influencé par tes biais d'opinion personnelle ? Non, j'essaye même pas. Je suis très paresseux. Ce qui est cocasse, c'est que l'exécution provisoire de sentence est justement prévue pour éviter des récidives avant la fin du parcours judiciaire. Ouais, mais quand en l'occurrence la sentence, c'est l'interdiction pour un citoyen de se présenter à une élection, moi je comprends que la question puisse se poser juridiquement. On verra ce que dit le Conseil constitutionnel. Imaginons que le Conseil constitutionnel dise qu'effectivement c'est inconstitutionnel. Est-ce que ça annule l'élection qui a lieu entre-temps ? Non, mais ça sauve potentiellement Marine Le Pen pour... 2027. Ah bah non, parce qu'il y a l'appel entre-temps. Il y aura le jugement en appel. Bonne question. Si elle est déboutée, il va se passer quoi ? Rien. Rien. Elle sera pas... Merci, Poca. Elle sera pas... Elle sera pas candidate aux élections législatives, parce que sa candidature n'aura pas été retenue par la préfecture, et que le tribunal administratif lui aura donné raison. Et pour ce qui est de la candidature à l'élection présidentielle, ça dépend du jugement en appel. Mais je vous redis ce que je vous avais dit sur le jugement de Marine Le Pen en première instance. Quand on voit quand on lit le jugement rendu par le tribunal, le niveau de précision, le niveau d'argumentation des juges pour condamner Marine Le Pen, moi j'ai du mal à imaginer que Marine Le Pen gagne son procès en appel. Ça peut arriver, mais franchement, la minutie et la précision du jugement rend le truc difficilement contestable. Et de toutes les manières, parce que je vous sens inquiet sur l'avenir de Marine Le Pen, je vous sens inquiet, mais rien n'empêche Marine Le Pen de devenir Première ministre. Je vous rappelle que l'inéligibilité ne s'applique que pour les trucs d'élection. Éligibilité, c'est élection. Ministre, c'est pas une élection. Donc on peut tout à fait être inéligible et ministre, c'est complètement possible. Politiquement, c'est pas très malin. Je vous ferai remarquer un truc, c'est que Marine Le Pen n'a pas beaucoup perdu dans les sondages depuis qu'elle a été jugée inéligible. Sous-entendu, l'électorat de Marine Le Pen fait bloc derrière sa candidate. Donc, pour l'instant, Marine Le Pen, elle n'a pas beaucoup perdu dans cette bataille, en tout cas dans l'opinion publique. Mais c'est toujours pareil, hein, c'est normal. L'électorat les soutient. Il y en a plein parmi vous qui doivent toujours soutenir Jean-Luc Mélenchon alors qu'il a été condamné par la justice. Ça ne vous a pas... Ça n'a pas changé grand-chose. C'est pas grave, hein, vous avez le droit. Moi, je respecte, il n'y a pas de souci. Mais... C'est pas pareil. Non, je sais, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Il était condamné pour quoi ? Oui, c'est ça. Faites les amnésiques. Je savais même pas. Ah bon ? Je savais même pas qu'il avait écopé d'une condamnation en justice. Oh. Les médias aussi ne parlent que d'elle et sincèrement j'en ai marre. Marine Le Pen, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que là, les médias, comme tu dis, ils sont plutôt concentrés sur Bayrou et sur la gauche, là, depuis l'ouverture de la séquence. Méluche, c'est pas les mêmes trucs que Marine, mais à une moindre échelle. Il n'y a pas encore eu de verdict là-dessus. Non, c'est il y a une enquête. Pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon, il n'y a qu'une enquête, une information judiciaire qui a été ouverte sur un soupçon d'emploi fictif d'assistant parlementaire au Parlement européen. Mais dans des proportions qui n'ont rien à voir avec le RN, parce que pour le coup, la spécificité du jugement de Marine Le Pen, c'est que le RN a mis en place une organisation de détournement d'argent public, en gros. C'était un truc industriel, quoi. Jean-Luc Mélenchon, ça n'a rien à voir. Si, c'est le même délit. C'est le même délit qui lui serait reproché éventuellement si un jour il était renvoyé devant un tribunal. Mais lui, ça concerne 3 ou 4 assistants parlementaires. T'aurais la même enquête contre les macronistes, par exemple, tu peux être sûr que tu aurais LFI vent debout à crier au scandale. Pas que LFI, en l'occurrence, il y a la même affaire pour le Modem. Le Modem, c'est un parti politique qui a été condamné pour des emplois fictifs au Parlement européen. Et Bayrou s'en est sorti blanchi. Bayrou a été personnellement blanchi dans ce dossier, oui. Oui, oui. Donc Bayrou n'a rien fait de mal, mais le parti politique de Bayrou, ainsi que plusieurs cadres de ce parti, eux, ont détourné de l'argent via les assistants parlementaires. C'est la mode des emplois fictifs au Parlement, dis donc. Moi, de ce que j'ai compris, des gens qui connaissent un peu le dossier, ils m'ont dit, tu sais, à l'époque, tout le monde faisait que ça. Tout le monde. Tout le monde utilisait les assistants parlementaires au Parlement européen pour bosser pour le parti, etc. Il a fallu que le Parlement européen commence à enquêter pour découvrir que beaucoup d'élus faisaient n'importe quoi. Mais c'est toujours la même question philosophique. Est-ce que un délit commis par tout le monde arrête d'être un délit ? Absolument pas, votre honneur. mais c'est... Voilà. Donc, non, mais c'est comme Pénélope Fillon. Hein. Pénélope Fillon, François Fillon, a fait embaucher son épouse à l'Assemblée nationale par un député. C'est pas le premier. Il y a une époque, ça se faisait, de faire embaucher des proches. À l'Assemblée. Est-ce que tous les pays le font ou c'est surtout la France ? Ça, j'en sais rien. Ça, les autres pays, je sais pas du tout comment fonctionnent leurs règles en matière d'assistants parlementaires. Je sais même pas si ça existe dans tous les pays, j'en suis pas sûr. Non, c'est beaucoup plus subtil. Donc, La première dame, c'est pas un peu ça, non ? Non, parce que la première dame n'a aucune fonction officielle, donc ça change rien. En Corée du Nord. Au Parlement nord-coréen. Est-ce qu'il y a des assistants parlementaires qui rédigent des notes, qui font des amendements ? Les emplois fictifs, j'ai l'impression que c'est un truc de droite quand même, ou je me trompe. Attends, ça n'a pas encore été jugé. Je t'ai dit qu'il y avait une enquête qui avait commencé. Pour l'instant, on est qu'au stade de l'enquête. On verra si la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon sont condamnés. Mais ça, et pour ça, il faudrait qu'ils soient renvoyés dans un procès, et c'est pas encore sûr. Il y a un vrai parlement en Corée du Nord. Si ton standard de parlement, c'est un truc européen, un peu comme le nôtre, on peut pas vraiment dire qu'ils ont un parlement en Corée du Nord. Ce serait... Non. Le bâtiment existe. Il y a un bâtiment. Il y a un bâtiment... qui s'appelle Parlement, il y a des chaises, il y a une estrade et tout. Ça y a. Ouais, c'est vrai. Une salle de concert avec des gens qui applaudissent. Non mais quel enfer. Ça me tue. Ça me bute. Bon les copains, ça fait 3 heures qu'on est ensemble. Je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter un excellent The Event. Je vous invite à bourrer les dons, à passer un très bon week-end, à bien profiter des streamers et des streameuses qui vont vous ambiancer pendant tout le week-end. Amusez-vous bien. On se retrouve lundi. Alors, je vous écrivais dans votre agenda. Lundi, 14h, stream, départ de François Bayrou. C'est un stream historique. Je vous rappelle que c'est la première fois depuis 1955 qu'un Premier ministre va perdre un vote de confiance. Cravate, du coup, je mettrai une cravate. Je ne mets une cravate que pour les jours historiques. Donc soyez là, ça va être fou. Si ça se trouve, ce sera la désillusion. Et si ça se trouve, patatras. Désillusion pour tout le monde, ouais. C'est possible. Je sais pas, j'y crois pas. Est-ce que t'avais streamé celui de 55 ? Ouais, je devais être en stream, je me souviens plus. Tu sais, ça date, hein. Ça date sérieusement. Ouais, je vous fais un gros bisou, les copains. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne soirée. Profitez bien du concert du The Event ce soir. Bisous tout le monde. À bientôt. Ciao.